bonjour à toutes et à tous. Donc, après une telle introduction, c'est difficile de réatterrir. Bienvenue à cette table ronde sur changer les modes de vie. J'ai le plaisir d'avoir quatre invités que je vais présenter successivement selon les tours de parole. On va commencer par toi, Fabrice Flipeau, philosophe, auteur d'un livre sur changer les modes de vie, justement. Ben voilà, parfait, il est ici. Il est disponible à la librairie dans les écuries là-bas. Donc tu vas commencer par nous expliquer ce que sont les modes de vie, notamment les distinguer des éco-gestes, ça s'est beaucoup dit dans les différentes conférences ici, pour faire cette révolution écologique, il ne suffit pas des éco-gestes, et tu vas nous expliquer d'un point de vue de l'analyse comment on peut distinguer les modes de vie, des styles de vie, du système capitaliste productiviste dans lequel on est. Et ensuite, on se demandera quels sont les modes de vie à transformer en priorité. Pourquoi ? Quels sont les leviers à l'échelle locale comme nationale ? Je vous rappelle qu'on est 6 mois avant les élections municipales. Donc, c'est aussi l'occasion de réfléchir à ce que peuvent faire les collectivités locales. Quels sont les pouvoirs en la matière et comment elles peuvent être utiles pour changer les modes de vie. Et pour cela, on aura le plaisir d'entendre, pour cette échelle territoriale, d'abord Jeanne Barzé, maire de Strasbourg, qui a eu des politiques de transformation des modes de vie à l'échelle des mobilités et de l'alimentation, par exemple. Puis Jean-Baptiste Grenier, ingénieur à la planification écologique à la ville de Trappes et membre de l'Institut La Boétie, auteur d'un article que vous pouvez trouver sur le média Le Vent se lève, qui date de février 2025, sur la bifurcation des infrastructures du capital énergétique, de transport et de l'eau. Et enfin, on écoutera Antoinette Gull, sénatrice de Paris, qui nous parlera des transformations des modes de vie à l'échelle nationale, notamment peut-être avec l'exemple de la lutte contre le plastique à usage unique et les bouteilles d'eau en plastique, ce qui est un exemple qui montre le rôle aussi des infrastructures dans les transformations des modes de vie. Donc je te laisse la parole, Fabrice, pour nous expliquer ce que tu veux dire par ce changement des modes de vie et en quoi c'est une échelle qui permet d'avoir une échelle de transformation pertinente pour les transitions écologiques dont nous avons besoin.
Merci. Donc effectivement, vous pourrez trouver ce livre que j'ai oublié de prendre là maintenant tout de suite, mais il est à la librairie. Et donc le point de départ, c'est de se dire que ce changement de mode de vie qui est pour les uns porté par la planification, par les autres, par des actions plus décentralisées, en fait, je pense que l'essentiel se passe entre les deux. Et donc, j'ai essayé de voir comment les modes de vie changent déjà dans la réalité. Vous voyez bien que vous n'aviez pas de téléphone portable ou de smartphone il y a quelques années. Ben, maintenant, tout le monde en dépend et on ne se rappelle pas à quel moment on a voté pour le téléphone portable. Donc, en fait, les modes de vie changent constamment sous l'influence de certaines forces qu'il faut identifier. Et donc j'ai essayé de voir comment les modes de vie changent dans le libéralisme. Donc c'est ce qu'on connaît le plus. J'ai le bouquin à droite, regardez, l'impératif de la sobriété numérique. Donc je me suis intéressé, alors c'est un bouquin assez épais, sur comment les vies sont numérisées, quelles sont les stratégies des acteurs, qui s'y opposent. Enfin voilà, c'est un cas très détaillé. Alors que là, je vous propose quelque chose de plus général, qui est assez complémentaire avec ce que disent les gens de la fabrique des transitions. Enfin, je les ai vus ce matin. Eux, c'est plus territorial et dans disons le management territorial, mais c'est un sous-cas, je dirais, des cas auxquels je m'intéresse moi. Dans le bouquin aussi, je me suis intéressé à ceux qui ont déjà essayé de changer les modes de vie, à savoir les régimes socialistes, et en particulier le cas de la Yougoslavie, puisque la Yougoslavie a connu les trois formes de socialisme, sans marché, avec marché et autogestionnaire. Donc voilà, ça permet de voir, les modes de vie changent, les gens ont déjà essayé beaucoup de changer les modes de vie, donc tout ça c'est pour dire qu'on peut peut-être tirer des leçons plutôt que de se dire que rien n'existe et que tout est nouveau, et ben non, en fait tout n'est pas nouveau. Alors je vais faire quelques distinctions minimales, je vais être vraiment très très court, on a dit qu'on parlait 10 minutes d'intervention liminaire, et je vais être très pratico-pratique, c'est-à-dire que je vais laisser de côté toute la théorie, enfin il y a beaucoup de théories dans le bouquin, je vais aller au plus pratico-pratique. Donc en fait on ne peut pas aller sur les questions de mode de vie sans bien définir les modes de vie, en particulier les modes de vie c'est les dispositifs socio-techniques c'est quelque chose qui est socialisé. Le mode de vie, c'est pas quelque chose qui est individuel. La controverse revient tout le temps, et d'ailleurs, c'est une, à mon avis, en partie une fausse controverse, puisque ceux qui font le plus les soi-disant éco-gestes, sociologiquement, sont aussi ceux qui sont le plus engagés. Donc, c'est pas ou l'un ou l'autre en réalité, c'est plutôt les deux. Donc, il faut bien distinguer les modes de vie des styles de vie. Les styles de vie, c'est les choix individuels, justement. Ceux qui font la biographie individuelle. J'ai choisi un pull bleu, j'ai un pantalon noir, c'est mes choix personnels. Mais les choix personnels et les styles de vie prennent place à l'intérieur des modes de vie. Les modes de vie permettent ces choix et en même temps, ils les contraignent. C'est-à-dire qu'il y a certains choix que je ne peux pas faire ou en tout cas qui seraient très coûteux sur le plan de l'effort pour arriver à le faire parce que les modes de vie ne le permettent pas, en fait, hein, ou le permettent très, très difficilement. Une fois qu'on a distingué les modes de vie et les styles de vie, il faut identifier les minorités actives. Les minorités actives, c'est tous les acteurs qui essayent de changer les modes de vie, pas forcément dans le sens que nous on veut ici, hein, parce que sinon on n'aurait peut-être pas tous des smartphones dans la poche. Donc ces différentes minorités actives, ce sont les entreprises, les syndicats, les écologistes. L'État aussi, c'est une minorité parce que c'est une petite partie de la population qui essaye de changer le reste de la population et ça marche pas toujours. Il y a des lois qui sont inefficaces, inappliquées, etc. ou qui rencontrent une opposition. Donc c'est une dialectique des minorités contre les majorités, de la même manière que les entreprises et les syndicats. Les syndicats, pareil, ils vont pas changer la vie d'un seul salarié. Ils changent les modes de vie de tous les salariés. Une convention collective, c'est quoi ? C'est changer les conditions de travail de toute une classe de salariés. Le travail syndicaliste de base, c'est de défendre des individus parfois, mais le syndicat en tant qu'organisation essaye de changer les modes de vie dans le travail. Et tout ça, je voulais ajouter le cas des héros. Hein, quand je dis que dans les minorités actives, il y a ceux qui sont héroïques, hein, qui arrivent à faire des changements extrêmement difficiles, mais qui parfois ne font pas système, c'est-à-dire que ça reste quelques petits cas qui sont quand même très utiles parce que ça montre que c'est possible. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est inutile, hein, mais il y a une très grande diversité d'engagements possibles pour changer ces modes de vie, de niveaux d'efforts possibles, et si on veut embarquer beaucoup de gens, tout le monde ne peut pas attendre que tout le monde soit des héros, quoi. C'est un peu ça aussi l'histoire. Alors les modes de vie, ils ont une cohérence donc subjective, c'est-à-dire ceux qui sont dans les modes de vie, pour eux ça fait sens. S'ils sont à cet endroit-là, s'ils vivent de cette manière-là, s'ils font des barbecues par exemple, c'est parce que c'est de la convivialité, il y a un sens. Et puis ça a une cohérence aussi objective. Objective, c'est on aime bien bouffer de la viande, mais ça émet des gaz à effet de serre, et peut-être que les gens ne le savent pas ou on ne le sait pas, parce qu'il y a une réalité des modes de vie qu'on ne saisit pas, que tout un chacun ne saisit pas forcément. C'est des modes de, les modes de vie se jouent à différents niveaux, hein, le côté scalaire, c'est-à-dire qu'il y a des modes de vie très locaux, des modes de vie donc, sur lesquels on peut jouer à l'échelle d'une municipalité, d'autres qui sont globaux, à l'inverse. Hein, l'IA en ce moment et les prompts sur l'IA, c'est global. L'usage de WhatsApp, c'est global. Donc il y a vraiment différents niveaux, il faut avoir l'idée, parce que si on définit pas ça, en fait, on ne sait pas sur quoi on agit. Donc il faut bien identifier ces caractéristiques des modes de vie. Les modes de vie sont interdépendants. Quand on agit sur un mode de vie, on en touche souvent un autre, etc. Et puis, ils sont faits de trois dimensions. Ah ben zut, ça ne s'affiche pas. Petit problème de voilà. La première dimension, c'est la dimension des règles politiques. Deuxième dimension, c'est l'échange économique. Et la troisième dimension, très importante pour tous ceux qui s'y intéressent, c'est l'identité. C'est-à-dire que les modes de vie définissent l'identité des personnes. Donc quand vous touchez au mode de vie, vous touchez une identité, une catégorie d'identité, puisque c'est une identité collective. Et donc si vous n'avez pas un discours sur l'identité, c'est-à-dire d'où on vient, où on va, pourquoi on le fait, quelque chose, certains appellent ça la mise en récit, en fait vous n'allez pas vraiment toucher le mode de vie. Donc c'est une dimension assez essentielle. Alors, en pratique, ce que je dis, ça peut s'appliquer aussi bien à la révolution de 1917, je pourrais faire l'exemple, si j'avais le temps, je vous montrerais, que l'usage des couches lavables, la généralisation de l'usage des couches lavables. J'aurais pu témoigner de mon propre cas sur les couches lavables d'ailleurs, parce que c'est moi qui m'en suis occupé principalement. Et donc, ce que je propose à la fin du bouquin, c'est un certain nombre de questions à se poser. Je vous ai dit, je zappe toute la théorie, hein. Donc en 10 minutes, je suis obligé, il y a les distinctions, puis après, maintenant, comment on opérationnalise ça ? Ce que j'ai fait un certain nombre de fois avec des élus, notamment, c'est de dire, vous avez certainement une bonne idée de politique publique, et je vous propose, à partir de toute ma théorie, donc que je ne vous expose pas vraiment aujourd'hui, de vous poser des questions. Ces questions vont vous aider à voir si vous identifiez tous les, disons, une bonne partie des raisons pour lesquelles votre mesure ne va pas marcher. Donc ça ne garantit pas la réussite, mais ça permet d'éviter des échecs évidents, on va dire, où on se dit après, bah ouais, c'est sûr que ça ne marcherait pas. Alors, le premier point, c'est d'identifier quel est le problème. C'est-à-dire, quand on a une idée de mesure, bah, c'est pour répondre à un problème. Mais il faut que le problème, déjà, il soit bien identifié. Il faut que le problème, s'il n'est pas suffisamment identifié, il faut peut-être mettre en place des mesures qui font que le problème est plus saillant, y compris pour les personnes que vous avez en tête. Face au problème, vous avez une solution. La solution, bah, c'est votre mesure. Vous voulez mettre des transports en commun, des couches lavables, vous voulez faire la révolution. Voilà. Le problème, c'est l'exploitation des travailleurs. La solution, bah, c'est l'abolition du régime qui est en place. Alors là, très important, quel est le public que vous visez ? C'est-à-dire, si vous êtes tout seul à conceptualiser le problème et qu'en fait, votre public, ce n'est pas son problème, bah, vous avez quand même toutes les chances que vous allez vous retrouver tout seul, en fait. Hein. Donc, et l'expérience montre, dans les formations que j'ai faites, que beaucoup ne se sont pas réellement posé la question du public auquel ils étaient en train de parler, sous l'angle de l'identité et sous l'angle du mode de vie, c'est-à-dire avec les définitions que j'ai données tout à l'heure. C'est pas juste un truc vague, et on est bien sur le mode de vie, on n'est pas sur le style de vie, parce que le style de vie, aller sur le style de vie aussi, c'est vécu comme très intrusif pour les gens. Le style de vie, c'est ma sphère privée. Alors que le mode de vie, c'est l'élément qu'on peut politiser parce que c'est social. Donc on n'est pas intrusif quand on est sur les modes de vie. Donc est-ce que c'est bien son problème ? Ensuite, par rapport au public visé ou les solutions proposées, quelle est la trajectoire socio-technique que j'esquisse ? C'est-à-dire quel est le monde qui va avec ma mesure ? C'est pas juste on va faire ci, on va faire ça. La mise en récit, c'est pas juste raconter quelque chose, c'est dire avec ceux avec qui on est ou avec qui on propose la solution, où est-ce qu'ils vont être dans le monde d'après, en fait, hein, dans le monde qu'on propose, parce que pourquoi ils nous croiraient ? Il n'y a pas vraiment de raison qu'ils nous croient, donc il faut qu'on les convainque. Pour les convaincre, il faut qu'ils soient dans l'histoire. S'ils ne sont pas dans l'histoire, ils vont dire comme ça, bon, c'est des gens qui nous donnent des leçons, et ils ne vont pas écouter, en fait. Hein. Et après, il faut identifier, bon là, un petit problème aussi, identifier quelles sont les minorités actives qui sont porteuses, celles qui vont nous aider, et celles qui sont plutôt des adversaires. Donc peut-être que contre les adversaires, bah, il faut mettre en place un certain nombre d'actions. Donc minorité active porteuse dans la Russie de 1917, bah, c'est les quelques usines qui se trouvent à Petrograd, alors qu'en fait, il y a très très peu d'usines en Russie, c'est extrêmement faible, mais c'est identifié comme étant le lieu qui permet de faire basculer tout le reste. Parce que l'enjeu, c'est justement pas de rester à une mesure isolée, c'est de faire basculer. De faire basculer, c'est ce qu'on appelle l'effet de réseau. L'effet de réseau, alors là, c'est l'approche que je propose, hein. L'effet de réseau, c'est de dire qu'une mesure, elle est d'autant plus utile qu'elle est généralement répandue. C'est-à-dire, il est d'autant plus facile de faire du vélo qu'il y a déjà des vélos, en fait. Et c'est vrai pour plein de choses. Et ça s'appelle l'apprentissage collectif. Donc moi, je ne suis pas du tout dans une posture d'ingénierie sociale, par exemple, hein, où on regarderait ce qui a bien marché dans une ville pour transplanter dans une autre ville. On est dans une logique d'intelligence collective, c'est-à-dire qu'on rend les gens capables d'agir. Ce n'est pas du tout la même chose que l'ingénierie sociale. Donc un processus d'apprentissage collectif, je vous donne juste un chiffre hein, qui est tiré des études sur l'innovation. 90% de l'innovation dans la recherche et développement, 90%, c'est dans le développement. C'est-à-dire que c'est dans la réappropriation de l'idée par les gens qui vont décliner l'idée sous plein de sortes de différentes et eux-mêmes inventer plein de choses que vous n'avez pas du tout prévues. Et ça, il faut pouvoir l'accompagner plutôt que de dire « Non, c'est pas ce qu'on avait prévu. » Et bah oui, mais là, vous bloquez tout, en fait, en réalité. Hein. Donc, il faut être assez opportuniste. Tout ce qui est crise, c'est des phénomènes d'opportunité. Donc, il y a un problème au début de poulet de l'œuf pour démarrer. Ensuite, il y a un effet de seuil. Quand ça marche bien, ben, ça devient un effet de mode, en quelque sorte. Et donc, il faut arriver à gérer ça. Et la dernière question à se poser, c'est pour produire tout ça, concrètement, vous allez agir où ? Donc, les infrastructures, on en a discuté. Le point clé, c'est les infrastructures. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait le choix. Vous proposez quelque chose à quelqu'un, mais ce n'est pas possible. Comment voulez-vous que ça marche ? Ça ne marchera pas. Mais d'un autre côté, pour me faire l'avocat du diable, des infrastructures qui correspondent à aucun désir ou aucune... ça ne va pas marcher non plus. Donc, il faut arriver à tenir tous les éléments de l'architecture de choix. L'architecture de choix, c'est les éléments concrets qui dans lesquels les gens font un choix. Les éléments à la fois sociologiques et techniques. Hein, on a toujours les deux. C'est socio-technique en permanence. Je suis bon ? 10 minutes ?
Oui, super. Merci Fabrice. Et alors ? Merci beaucoup pour cette présentation analytique initiale. Jeanne Barzéguian, du coup, au niveau de la mairie de Strasbourg notamment, et que peuvent faire les services publics à l'échelle locale pour changer les modes de vie ? Est-ce que les services publics peuvent encourager, soutenir ces minorités actives, justement, qui changent ces modes de vie ? Comment on peut utiliser cette échelle locale ?
Ben bonjour à toutes et à tous, et puis merci pour cette invitation, parce que le titre voilà de cette table ronde m'a fait me poser beaucoup de questions, et des questions qu'on se pose pas forcément sous cet angle-là en tant qu'élu local, et donc je trouve que c'est particulièrement passionnant. Alors pourquoi je dis ça ? C'est parce que ben je me suis rendu compte que, et je salue mes collègues de Strasbourg qui sont là, que quand on parle de l'action qu'on cherche à mener à l'échelle locale, et notamment à Strasbourg, qui est une ville très belle, mais malheureusement qui est une ville très inégalitaire, dans laquelle il y a de nombreux écarts de revenus et beaucoup de disparités territoriales, beaucoup de disparités dans l'accès aux services publics, 26% des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, en fait, on se pose rarement la question de dire qu'on veut changer les modes de vie. Généralement, on se pose d'abord la question de comment tous les habitantes et les habitants de notre ville peuvent avoir accès à des conditions de vie dignes et si possible même désirables au quotidien. Et je dirais, c'est la première question qu'on se pose. On se dit pas il faut changer leur mode de vie, on se dit il faut qu'ils aient un toit sur la tête. Ça paraît évident, hein, tout ce que je dis, mais en fait, ça l'est pas quand on regarde les chiffres et quand on regarde concrètement les besoins des personnes. Beaucoup de personnes encore à la rue. Il faut qu'ils aient accès à une alimentation abordable et de qualité. Là aussi, on sait que c'est pas forcément le cas. Qu'ils puissent avoir accès aux soins, qu'ils puissent avoir accès plus globalement aux services publics, au commerce, à l'éducation, à la culture, au sport, etc., etc. Et donc, on est plutôt dans une logique, enfin, en tout cas au quotidien, une des priorités est quand même de se dire comment on vient réparer ou corriger les inégalités qui sont induites par le système dans lequel on vit, pour permettre à chacune et chacun déjà de pouvoir répondre à ses besoins, j'allais dire, de base, et ce, de manière digne. Donc ça, c'est le premier point. Et pour autant, évidemment, on se fixe des objectifs au-delà de celui-là, qui sont des changements davantage d'ordre systémique à l'échelle d'un territoire, mais rarement, là aussi, autour de « Ah, ben, on va changer les modes de vie des gens », mais plutôt autour d'objectifs politiques qui peuvent être, ben, je disais, la lutte contre la pauvreté ou la réduction des inégalités, l'adaptation de notre ville au changement climatique, l'amélioration de la santé des habitantes et des habitants. Et pour cela, on met en place un certain nombre de mesures, et ces mesures peuvent induire, effectivement, des changements de mode de vie. Mais c'est pas forcément notre objectif premier, c'est ça que je voulais dire. Par contre, oui, on cherche à avoir de l'impact pour atteindre ces objectifs politiques, et donc on déploie des solutions, des moyens qui vont nous permettre de le faire. Et c'est ce que je trouve formidable à l'échelle locale, c'est qu'on d'abord on travaille vraiment sur la vie quotidienne des personnes. On est vraiment on s'occupe du logement, des crèches, des déchets, des transports. Donc on peut difficilement faire plus vie quotidienne et de proximité. Et à l'échelle notamment d'une grande ville comme Strasbourg ou de sa métropole, on va pouvoir, quand on déploie des mesures, avoir de l'impact pour, j'allais dire, 500 000 personnes, 520 000 personnes, c'est la métropole de Strasbourg, mais voire même au-delà, puisque je donnerai des exemples tout à l'heure dans le domaine de la mobilité. En fait, on travaille, quand on travaille à renforcer, et je salue le collègue Alain Youn là-haut, 700 trains supplémentaires par semaine, le réseau express métropolitain, en fait, on travaille, on a de l'impact pour les habitants de notre territoire, de notre métropole, mais bien au-delà, puisqu'on va faciliter les déplacements et le droit à la mobilité pour des personnes qui viennent de l'extérieur de notre territoire. Donc, Voilà, je trouvais intéressant déjà de le poser comme ça, parce qu'on se dit rarement ah bah tiens, on va aller modifier les modes de vie des personnes. Et pour autant, je pense qu'un certain nombre d'habitants peuvent recevoir nos politiques comme ah bah ils ont décidé de changer les modes de vie de tout le monde et de changer mon style de vie à l'échelle individuelle et donc de restreindre mes libertés. Et ça, c'est des choses qu'on entend assez souvent et j'y reviendrai sûrement tout à l'heure. Pas dans ma première intervention qui ne doit pas être trop longue. Ensuite, je voulais dire que pour avoir de l'impact et pour atteindre ces objectifs politiques, nous, on parle souvent, dans notre action locale quotidienne, on parle souvent, on utilise beaucoup un terme qui est le terme de massifier. C'est pas très beau, hein. Massification. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va essayer de, par exemple, de massifier, quand on dit massifier les investissements, ce qu'on a beaucoup fait dans ce mandat, on va chercher à optimiser les résultats qu'on va avoir en mettant beaucoup de moyens sur des actions ciblées dans des domaines particuliers qui vont nous permettre d'obtenir un effet levier derrière. Et donc, ça, c'est très vrai à l'échelle municipale. On a investi massivement dans nos écoles à tous les niveaux, rénovation thermique, mise en sécurité, mise en accessibilité, numérisation, végétalisation des cours d'école, recrutement d'ATSEM, et ça on l'a fait vraiment de manière massive. Et ce qui donne, alors ce qui veut pas dire qu'il y a plus rien à faire, parce que en fait la tâche est absolument énorme. On a fait le même type de travail à la métropole sur les mobilités. On a massifié les opérations de végétalisation et de déminéralisation de la ville, ou encore on parle aussi de massification sur le domaine de l'énergie, je disais rénovation thermique, donc des écoles, mais finalement tous les bâtiments et aussi des logements privés et des logements sociaux, et aussi massification de la production d'énergie. Donc voilà, en fait, on cherche à optimiser finalement pour obtenir ces modifications structurelles qui, à terme, vont nous permettre d'atteindre ces objectifs politiques et d'améliorer, puisque c'est pour ça qu'on fait de la politique, d'améliorer la vie des habitantes et des habitants de notre ville, aujourd'hui, mais aussi demain, puisqu'on est toujours sur ces deux volets, la vie quotidienne de proximité, la réponse aux besoins quotidiens et la préparation de l'avenir, qui est notre responsabilité à toutes et tous. Et évidemment, en tant qu'élus locaux, on se doit, et dans un monde voilà, de grands bouleversements, et notamment de dérèglements climatiques déjà visibles, on se doit évidemment d'agir, y compris pour les prochaines décennies. Et beaucoup de nos plans, finalement, vont jusqu'en 2050, ce qui est finalement dans 25 ans. Hein, donc ça va venir assez vite. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin de massifier ou d'accélérer. Pour pas être trop longue, et je reviendrai ensuite sur d'autres exemples, mais je voulais dire qu'on a différents leviers à notre disposition en tant qu'élus locaux pour pouvoir atteindre ces objectifs. Il y a des choses qui sont pas forcément les plus visibles. Par exemple, tout à l'heure, vous parliez des syndicats. Et en fait, nous, on est un très gros employeur, Ville et Eurométropole de Strasbourg. C'est 8000 agentes et agents. En fait, quand on agit pour améliorer les conditions de travail de nos agentes et agents, par exemple, à travers la réforme du temps de travail en passant à la semaine en 4 jours, ça, c'est un exemple que je peux donner. Bah, forcément, on va avoir un effet levier très fort, puisque 8000 agents, c'est en fait déjà la taille d'une bonne petite ville. Et donc, ça signifie, c'est pas forcément les habitants de la ville vont pas forcément le voir, mais nos agentes et agents, ils en sont très conscients et ça va avoir beaucoup d'impact. Autre exemple qui nous permet de massifier, d'avoir de l'impact, qui est pas très visible, mais qui a un effet très fort, c'est tous nos marchés publics, par exemple. Nos marchés de travaux, notre commande public, et on a beaucoup poussé les achats publics responsables. Je crois que c'est 400 millions d'achats publics. Je regarde s'il y a Makaga Babaye qui est là. Oui, c'est ça. 400 millions de marchés publics sur ce mandat, dont 80% à peu près vont aux entreprises publiques locales, ou encore nos investissements, 3,5 milliards d'euros dépensés dans ce mandat entre la ville, la métropole et nos entreprises publiques locales. Et là aussi, avec une très grande majorité qui va aux entreprises publiques locales, ça nous permet évidemment de massifier. Les habitants ne le voient pas en tant que tel, mais en fait, c'est un effet levier absolument gigantesque qui, derrière, va permettre de créer des filières, etc. Et juste, peut-être pour finir, et tout à l'heure, je pourrais vous donner d'autres exemples, mais pour Alors, je ne vais pas dire modifier les modes de vie, du coup, mais atteindre nos objectifs politiques et changer les pratiques, on a finalement des leviers de deux sortes. Il y a ce que j'appelle, c'est pas du tout un bon terme pour une écologiste, mais c'est pas grave, ce que j'appelle les produits d'appel, c'est-à-dire des choses qui font envie, qui sont consensuelles, voilà, qui donnent envie et qui, de fait, vont générer des changements, voilà, mais de manière très positive. Ou alors, on a des leviers plus contraignants qui peuvent être de différents ordres, qui peuvent être financiers, qui peuvent être tarifaires ou qui peuvent être carrément, on déploie des infrastructures voilà, dans la ville qui, de fait, vont modifier les comportements individuels et collectifs. Et je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais aller trop loin. Mais en tout cas, voilà, je pourrais vous donner des exemples dans ces deux catégories-là tout à l'heure, et notamment l'ordonnance verte sur la partie plus produit d'appel positif et consensuel. Et puis, on pourra parler de réforme du stationnement, par exemple, si vous voulez parler de sujets un peu plus compliqués, mais qui ont aussi de l'effet, mais qui, pour le coup, sont beaucoup plus difficiles à mener dans le débat public. En tout cas, ils ne sont pas consensuels.
Merci beaucoup. Je laisse la parole maintenant à Jean-Baptiste Grenier, donc ingénieur à la planification écologique à la ville de Trappes, sur comment on peut faire à la fois à l'échelle locale d'une ville, bifurquer les infrastructures, mais peut-être aussi à l'échelle des infrastructures qui sont dépendantes aussi d'une échelle nationale. Voilà, comment faire cette articulation-là du local et du national ?
Bonjour à tous. Effectivement, pour déjà comprendre comment on peut agir sur les modes de vie, il est important de comprendre dans quel cadre ils se déploient. Dans l'analyse, disons, matérialiste classique, les individus produisent et reproduisent chaque jour constamment leurs conditions d'existence. C'est-à-dire qu'ils vont transformer leur environnement pour répondre à leurs besoins fondamentaux, à la fois physiologiques, se nourrir, se chauffer, se loger, se déplacer, mais aussi évidemment sociaux, culturels, musicaux, etc. Donc la manière avec laquelle ils réalisent ces actions de reproduction de leur existence, elle est le fruit de conditions particulières, elle est le fruit de l'état des techniques existantes, des caractéristiques techniques des forces productives. Et ces actions, elles s'inscrivent dans des rapports sociaux et politiques qui sont spécifiques. La division du travail, la répartition genrée du travail, les formes de gouvernement, les mécanismes de discrimination qui s'appliquent sur les gens. Et donc, dans l'analyse matérialiste, de ces rapports de production vont alors émerger des schémas d'organisation de la société qui peuvent prendre différentes formes successives au cours de l'histoire. Société esclavagiste, féodale, capitaliste. Les modes de vie ne peuvent se comprendre, à mon sens, vraiment qu'à l'aune du système d'organisation de la société dans laquelle il se déploie. Et donc, vous l'aurez compris, dans l'analyse aussi du capitalisme et de ces différentes réalisations historiques concrètes. Pour analyser la manière dont le capitalisme va quand même façonner les modes de vie, à mon avis, il faut aussi rappeler que le capitalisme, c'est pas uniquement un système économique qui repose sur l'accumulation, l'extraction de la plus-value et l'exploitation du travail, mais c'est aussi un système politique, culturel, idéologique, qui va, par exemple, véhiculer des valeurs comme l'individualisme et qui va façonner l'imaginaire collectif. Et donc, c'est l'analyse fine de la manière dont le capitalisme interagit avec l'environnement et la nature qui permet aussi de comprendre pourquoi nos modes de vie modernes actuels sont si dépendants de l'exploitation de la nature et des écosystèmes. Je vous en propose trois illustrations. Par exemple, en matière de modèle énergétique, on est tous très dépendants, évidemment, des énergies fossiles globalement, à l'échelle individuelle. Mais le choix du modèle énergétique, d'un modèle énergétique qui est totalement accro aux énergies fossiles et plus globalement à l'énergie massive, l'utilisation massive d'énergie, elle est le fruit de logiques capitalistes historiques très fortes. Et l'énergie abondante, elle va jouer un rôle clé dans le développement et aussi l'inertie du système capitaliste. Par exemple, vous connaissez les travaux du sociologue Andreas Malm, qui a montré comment vraiment le capitalisme avait choisi les énergies fossiles, car il lui permettait d'accentuer ses logiques. Logique d'exploitation, logique de décuplement des forces productives, logique de contrôle de la force de travail. Et l'énergie abondante, c'est aussi le fondement de notre société de consommation de masse. Donc ça, c'est une première illustration. La deuxième, par exemple, pour ce qui concerne le choix du modèle agricole et forestier, c'est aussi des logiques vraiment qui ont été choisies par un système économique qui nous rendent dépendantes de chaînes d'approvisionnement agro-industriel qui reposent sur l'intensification du travail agricole, sur la surexploitation des écosystèmes de pêche, etc. Et c'est sur ces réseaux, sur ces logiques que sont branchés nos modes de vie. Troisièmement, par exemple, le choix du modèle de transport et de libre-échange généralisé s'inscrit aussi dans une production capitaliste de l'espace. Ça, c'est par exemple les travaux du géographe marxiste David Harvey qui nous le montre, qu'en fait, le choix du tout voiture, le choix de la spécialisation fonctionnelle des espaces, c'est des choix qui contraignent nos modes de vie, qui les guident, mais qui sont le fruit de logique d'un système qui repose là-dessus et qui lui permet d'accentuer ses propres mécanismes. Et notre période historique, c'est donc celle aussi de modes de vie qui sont branchés sur l'infrastructure et la superstructure capitaliste. Et leur réalisation des modes de vie repose chaque jour sur deux choses. Évidemment, l'exploitation du travail productif et reproductif, à la fois des individus et de la nature. Et donc, c'est dans ce cadre-là, et avec cette grille de lecture-là, à mon sens, qu'il faut penser les transformations sur les modes de vie. Et c'est cette contrainte globale-là sur les modes de vie, cette contrainte capitaliste sur les modes de vie, imposée par le capitalisme, qu'il s'agit, à mon sens, de desserrer. Pour moi, on peut en ressortir trois logiques d'action de cette analyse principale. C'est que ce soit au niveau national ou local, il y a un enjeu clé sur la prise de pouvoir des principales infrastructures et réseaux qui conditionnent nos modes de vie et qui encouragent, sous régime capitaliste, leur expression capitaliste. Par exemple, pour les réseaux d'énergie, c'est un élément très structurant. Le contrôle des pipelines, des centrales électriques, des barrages, les réseaux d'eau, on a eu l'expression tout récemment avec tous les luttes autour de Sainte-Soline, auxquelles la gauche radicale a pris part, on est au cœur de la lutte pour le contrôle des infrastructures clés qui permettent derrière le déploiement des modes de vie. Déploiement de modes de vie qui reposent sur l'agriculture intensive, sur etc. etc. De même, des filières industrielles clés, des chaînes d'approvisionnement agroalimentaire, c'est des infrastructures clés sur lesquelles il faut reprendre le pouvoir. Par exemple, concrètement, en portant des nationalisations stratégiques ou en renforçant le contrôle populaire sur ces infrastructures au bon niveau. Il y a des infrastructures qui doivent être pensées au niveau local. On pense par exemple à tout le combat mené notamment par les municipalités écologistes sur la régie de l'eau, avec maintenant 50% de l'eau au niveau local qui est gérée par des régies. Ça, c'est une vraie victoire. C'est un vrai combat concret où on a réussi à sortir la question de l'eau de logique de profit privé et d'extraction de la plus-value. Deuxième élément, deuxième logique d'action qui me semble hyper importante, c'est le choix de l'alliance sociale objective qui doit porter cette bifurcation écologique des modes de vie. Les alliés objectifs, les alliés sur lesquels le mouvement de rupture de gauche, écologiste, populaire, devra s'appuyer, c'est ceux qui subissent le plus, évidemment. Ça veut dire que la transformation des modes de vie, elle doit venir des classes populaires et des classes intermédiaires les plus défavorisées. C'est par exemple ce que à l'Institut de la Boétie, on a essayé de montrer avec le livre Nouvelle Peuple, Nouvelle Gauche, sur quelles sont les réalités de ces classes populaires actuellement et comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur leur réalité pour transformer derrière les modes de vie dans le système actuel. Troisièmement, à mon avis, il y a aussi un enjeu d'accepter la logique conflictuelle de la transformation écologique. Il n'y a pas de classe écologique transpartisane pour penser ce changement des modes de vie. Il y a des gens, des intérêts, des groupes qui ont intérêt à maintenir certains modes de vie et dont la position sociale, la position de classe dépend du maintien de ces modes de vie, notamment l'industrie pétrolière, l'industrie numérique, l'industrie bancaire. Et donc, il n'y aura pas de transformation écologique avec les tenants du libéralisme effréné, par exemple. Plus simplement dit, l'écologie sans lutte de classe, ça reste du jardinage. Et donc, troisième logique d'action aussi, d'intransformation des modes de vie, à mon sens, qui sont importants, c'est d'assumer le pouvoir subversif et de rupture des transformations écologiques, notamment leur impact sur les modes de vie, et échapper à toute illusion de forme de réformisme, de conformisme, qu'on pourrait dire non, on va devoir changer radicalement certains modes de vie, il faut l'assumer, et leur expression capitaliste n'est plus viable pour nos écosystèmes, pour les individus, pour la société, à court, moyen et long terme. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut assumer, nous, au niveau de la gauche de rupture. Et c'est aussi à ce titre qu'on peut souligner que l'échelon local, ça peut être un formidable lieu d'expérimentation, d'innovation et de tentative de rupture et de bifurcation pour penser ces choses-là. Donc voilà, après, peut-être qu'on aura le temps de le faire dans un second temps, mais pour revenir aussi sur concrètement, quels sont les gros leviers qu'on va devoir assumer, articuler, porter, à la fois au niveau national et local, et on pourra y revenir dans un second temps.
Merci beaucoup pour ces trois pistes. Et je donne donc la parole à Antoinette Gull, sénatrice de Paris, pour peut-être l'échelle nationale réglementaire pour transformer ces modes de vie, aussi bien ces infrastructures que ces dynamiques sociales.
Très bien. Merci. Bonjour à toutes et tous. Déjà, vous dire que je suis contente d'être ici et d'être parmi vous. C'est une première pour moi, donc ça me fait très plaisir. Alors, effectivement, je suis sénatrice de Paris. Avant d'être sénatrice de Paris, j'étais adjointe à la maire de Paris, en charge de l'économie sociale et solidaire, de l'économie circulaire et de l'innovation sociale. Je le dis parce que ça reviendra dans mon propos, donc je veux vous dire d'où je parle. Et puisque je vous dis d'où je parle, je vais même aller beaucoup plus loin. Moi, je suis née à Hayange. Hayange, vous connaissez peut-être, c'est pas loin de Florange. Florange, c'est le dernier haut fourneau qui a été fermé lorsqu'on a décidé de fermer toute la partie sidérurgique, de production sidérurgique de l'Est de la France. Je dis ça parce que très tôt, j'ai été frappée par ce que le capitalisme faisait aux êtres humains. Je dis ça parce que moi, je pensais très tôt, je devais avoir 15 ans à ce moment-là, qu'en réalité, d'une part, il y avait une très très grande injustice, tout à coup, à fermer des entreprises qui finalement étaient rentables, faisaient vivre tout un territoire, et par ailleurs, avaient déjà engagé une forme de transition écologique, puisqu'une partie de cet acier était déjà produit de manière décarbonée, ce derrière quoi on court toujours aujourd'hui. Donc, je vous dis ça parce que ça a vraiment éveillé chez moi cette réflexion d'une alternative possible au capitalisme, parce que, comme ça vient d'être dit, effectivement, on est là dans un système qui est à la fois un système économique, bien sûr, mais aussi un système économique parce que ça gère la question du capital et donc directement de l'argent, mais aussi de l'argent public, je vous en parlerai tout à l'heure, d'un système politique, d'un système de valeurs, et donc il fallait aller chercher, pour moi, quelles étaient les alternatives possibles à ceux qui avaient rendu si difficile la vie dans la région d'où je venais. Et quand je dis la vie, ça veut dire la vie de mes parents, la vie d'une famille proche, des voisins, etc., puisque tout le monde s'est retrouvé petit à petit au chômage, impliquant d'ailleurs qu'aujourd'hui, c'est un territoire qui est un territoire d'extrême droite, puisque cette ville d'Hayange dont je vous parle, qui a vu la fermeture du dernier haut fourneau, aujourd'hui a un maire d'extrême droite qui a été élu au moment où on fermait les entreprises et au moment où le dernier service public, l'hôpital, a été fermé. Voilà, je dis ça, je ferme la parenthèse qui est un peu d'actualité aujourd'hui. Mais pourquoi je dis ça ? Parce que dans le changement de mode de vie, j'ai toujours pensé qu'il fallait modifier l'économie, qu'il fallait modifier la manière dont on produit et la manière dont on consomme pour pouvoir arriver à des changements de mode de vie qui étaient compatibles avec le système écologique. Parce qu'en réalité, c'est ce qui nous nourrit, nous, élus écologistes, c'est de réussir à faire en sorte de développer des politiques publiques qui changent le mode de vie pour pouvoir permettre nous puissions continuer à vivre sur cette planète. C'est ça qui nous anime. Donc, en fait, cet intitulé de table ronde est éminemment écologique. C'est ce qui fait, en réalité, pour moi, c'est ce qui fait la colonne vertébrale des élus écologiques que nous sommes. Comment réussir à rendre désirables ces modes de vie que l'on appelle de nos voeux, parce que les limites planétaires, et parce que quasiment toutes les limites planétaires aujourd'hui sont atteintes. un des modes de vie dont on parle peu, parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de modes de vie, on pourrait vous parler du, enfin, il y a beaucoup de choses qui définissent les modes de vie, on pourrait vous parler de mobilité, et donc vous dire, eh ben, pour qu'il y ait de la mobilité, il faut des vélos électriques, et puis des pistes cyclables, et ça suffira, mais il faut aussi, en plus, rendre désirable, et faire que ce soit effectivement intéressant, sympathique, à la mode, de se déplacer de cette manière-là. Pour pouvoir changer notre manière de s'habiller, eh bien, il faut non seulement avoir conscience que quand on porte du polyester, on porte du plastique qui finira à la mer, etc. Ça, c'est pas du tout sympa, c'est pas du tout sexy, mais de se dire que finalement, une mode de seconde main devient quelque chose d'assez intéressant. D'ailleurs, pour qu'elle aille intéresser le capitalisme et générer aussi d'autres modes de prédation, mais ça, on pourra aussi en discuter, mais que pour que cette mode d'une seconde main devienne intéressante, eh bien, il faut qu'elle suscite le désir. De la même manière, pour que notre économie se transforme en une économie moins prédatrice, qui existe, hein. C'est une économie sociale, c'est une économie solidaire, une économie coopérative, une économie circulaire, engagée, etc. Tout ça existe, ça va changer non seulement notre manière de travailler, mais aussi notre manière de produire et sans doute notre manière de consommer. Et donc, ce que je veux dire, c'est pour que ces changements de mode de vie soient rendus possibles, effectivement, je dis, moi, en tant qu'élu, je cherche toujours quelles sont les infrastructures qui vont amener ces modes de vie à pouvoir exister. Alors, ça peut être effectivement les pistes cyclables, mais ça peut être aussi les moyens qui sont donnés pour qu'une autre économie puisse exister. Puisqu'aujourd'hui, tout dans la manière de faire, y compris de l'État, ne va aller qu'à une seule forme d'économie, qui est l'économie capitaliste. Je sors je sors en juillet, hein, mais comme on n'est pas tout à fait rentré, ça ne vous a pas échappé. Donc on a fait une commission d'enquête qui s'est terminée en juillet sur les aides publiques aux grandes entreprises, dont vous avez dû entendre un peu parler, qui est une commission d'enquête d'ailleurs dont le rapporteur était un communiste, hein, rendons à César ce qui est à César, et qui en fait est abouti à la conclusion suivante. Le premier budget de l'État, 211 milliards, c'est des aides publiques aux grandes entreprises, pas aux entreprises territoriales, ancrées, locales, coopératives ou des structures d'économie sociale et solidaire dans les territoires. Non, 211 milliards d'euros, c'est aux grandes entreprises. Je vous demande juste de mettre ça en parallèle avec le débat sur les retraites ou le fait de rechercher 30 milliards d'euros pour le budget de l'État, hein. C'est 211 milliards d'euros tous les ans donnés sans contrepartie et avec très très peu de contrôle aux grandes entreprises. C'est dire en fait qu'y compris dans nos choix budgétaires, en fait nos choix budgétaires vont aller générer l'économie et le système économique qui existe. Et vont de fait aller arbitrer contre une autre forme de système économique, parce que dans le même temps où on donne 211 milliards aux grandes entreprises, on donne dans le budget de l'État 20 millions d'euros à l'économie sociale et solidaire. Vous avez entendu, hein, c'est 20 millions, c'est pas 20 milliards, hein. 20 milliards, ce serait déjà une réussite. 20 millions d'euros. Et donc, on doit se battre pour que ce budget de 20 millions soit maintenu. Parce que tous les ans, on nous présente un budget où, en plus, on rabote ces 20 millions d'euros. C'est simplement pour vous montrer le cynisme dans lequel on est. Et pourquoi cette économie sociale et solidaire, elle va aller changer les modes de vie si on y mettait les moyens? C'est parce que justement, c'est elle qui amène à la fois la réflexion d'une forme de démocratie, d'une forme de démocratie au travail. Et là, vous le voyez avec les coopératives, mais vous le voyez aussi dans le monde associatif où les décisions sont prises et sont mises en œuvre collectivement. C'est aussi elle qui va aller chercher les nouveaux modes de vie qui sont en adéquation avec un idéal écologiste, avec un idéal humaniste, avec un idéal de solidarité et qui va aller développer des manières de faire qui fonctionnent. Ça a été le cas dans l'économie circulaire. Là, on parle par exemple de la mode durable. Eh bien, on sait que ça fait très longtemps que la mode de seconde main, elle est inventée dans l'économie sociale et solidaire et elle existe depuis très longtemps. Aujourd'hui, ça devient un peu à la mode. Et c'est pas l'économie sociale et solidaire qu'on aide pour qu'elle puisse continuer à développer ça ou être au meilleur de sa forme. Mais c'est le cas également, je sais pas, on a évoqué la question de la lutte contre les plastiques et la sortie des plastiques. Là, c'est pareil. On sait très bien que si on donnait la parole à chaque salarié dans une entreprise, eh bien, cette question de la sortie du plastique pourrait être amenée dans les processus de production. Or, c'est pas le cas. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a très peu de temps, je fais le tour en ce moment, je fais le tour des entreprises engagées en France et je suis allée voir 1336, c'est la fabrication de thé. Vous voyez, près de Marseille, c'est les anciens thé éléphants. Une aventure incroyable, 1336 jours de grève pour réussir effectivement à garder l'entreprise, à en faire une coopérative et à produire soi-même. Alors déjà, juste je vous raconte cette petite anecdote, je sais pas si j'ai encore le temps, je vous raconte cette petite anecdote, mais quand on arrive dans l'entreprise, c'est très étonnant parce que c'est pas une entreprise classique en fait. Les salariés, qui sont aussi coopérateurs, eh bien, ils nous arrêtent et ils disent « Ah mais vous êtes qui vous ? Ah oui, vous êtes sénatrice et pourquoi vous venez chez nous ?» Et puis ils disent « Ah bah c'est bien, bah merci, bah, bonne journée, on se recroisera sûrement ». Et donc ça, j'ai dû le faire à peu près 10 fois, c'est-à-dire que les gens, ils sortaient de leur poste de travail pour venir voir qui est-ce qui venait dans leur entreprise, parce que c'était leur entreprise. C'était pas l'entreprise de quelqu'un d'autre où ils avaient une tâche à exécuter. Ils pouvaient mettre en pause la tâche à exécuter pour venir voir ce qui se passait dans cet espace commun qui était à eux. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très très intéressant. Il y avait, je racontais juste avant sur le parking, il y avait un bateau. Je dis, bah, c'est rigolo. On arrive chez vous et on voit un bateau. Ils disent, bah oui, mais en fait, il est à un des coopérateurs de l'entreprise parce qu'en fait, il n'a pas de garage chez lui. Puis nous, on s'est dit que le parking était assez grand. On a voté, puis on lui a dit qu'il pouvait prendre une place pour mettre son bateau. Ça veut dire aussi qu'une partie de ce patrimoine commun, eh bien, il peut servir à l'un ou l'autre si c'est décidé collectivement. Et donc, tout ça, ça change la manière d'habiter son entreprise, de vivre son entreprise, de vivre son travail. Et ça change, en réalité, le mode de vie si on réussissait à le faire être à l'échelle de ce qui est, attendu, à l'échelle d'un territoire ou à l'échelle d'un pays. Mais pour ça, il faudrait qu'on réussisse à modifier les arbitrages financiers, déjà, pour pouvoir permettre le développement de ces autres formes d'économie. Et puis aussi réussir à rendre désirable cette autre manière de faire et de travailler.
Merci beaucoup. Pour ce second tour d'intervention, je vais vous laisser rebondir aussi sur ce que vous venez de dire les uns les autres, mais peut-être une question transversale pour vous quatre qui est revenue à travers vos différentes analyses, c'est la question de la conflictualité. Pour changer les modes de vie, il va falloir aller à l'encontre d'autres modes de vie. Ça fonctionne pour le cas des inégalités sociales parce que permettre de loger les plus pauvres, bah, c'est peut-être prendre des logements vides aussi. C'est aussi corriger des inégalités de revenus. Et on le voit tout le débat aujourd'hui avec la taxe Zuckman, avec ses enjeux de justice sociale. C'est aussi ce que tu as dit, Jean-Baptiste, sur les enjeux d'une... Il n'y a pas de classe écologique neutre qui ne serait pas située socialement. Donc, en fait, ça implique aussi d'assumer, du côté du compris écologiste, le fait qu'il y a de la conflictualité politique, qu'on a des adversaires. Comme tu le dis aussi, Fabrice, il y a des alliés, il y a des adversaires. Et donc, finalement, quand on veut transformer ces modes de vie, comment on fait pour faire la rupture avec les modes de vie dominants? Comment on peut soutenir ces minorités actives? Parce que finalement, sur tous ces enjeux-là, aussi bien la fast fashion, etc., il y a toujours des intérêts en place qui s'opposent à ces transformations-là. Donc ça implique toujours une conflictualité. Est-ce que ça implique pas aussi que dans notre présentation de la révolution écologiste qu'on appelle de nos voeux, il faille assumer cette part de conflictualité politique? Peut-être si vous voulez répondre dans le même ordre que votre premier ordre d'intervention.
Non, mais tout à fait. Enfin, moi, la question plus générale que je pose, c'est effectivement une diversité de minorités actives, et quelque part, on l'a entendu dans les interventions, c'est-à-dire que c'est pas les mêmes, on parle pas des mêmes acteurs, une mairie, un parlement, un autre parti politique, enfin, tout ça, c'est des partis, c'est des minorités actives qui ne ciblent pas forcément exactement les mêmes publics, donc pas forcément non plus les mêmes modes de vie ou les mêmes endroits dans la société. Tout tout en ayant, tout en souvent partageant, disons, les grands objectifs. Et la question qu'on peut se demander, enfin que moi je me pose, c'est comment toutes ces petites actions ici ou là, dont aucune ne fait vraiment la différence à elle toute seule, peuvent, disons, conspirer à un changement systémique, quel que soit le nom qu'on donne au système, parce que chaque minorité active a sa propre opinion sur comment nommer le système. Pour les uns, c'est le capitalisme, pour les autres, c'est le système patriarcal, pour les autres, c'est le système productiviste. Je pense que c'est important de ne pas surinvestir, en fait, ces manières de définir le système, puisque de toute façon, le système est assez lointain, pour recentrer sur, justement, les modes de vie. Ce n'était pas contradictoire avec ce que tu dis, c'est une autre manière un peu de réinvestir le sujet et voir comment ces transformations quotidiennes, en fait, elles ont un effet d'entraînement plutôt que les grands discours où les gens écoutent puis en fait ils s'en vont quoi. Ils ont un effet d'entraînement et dans l'effet d'entraînement, en construisant le monde de demain, il y a cet effet de réseau qui fait qu'on attire de plus en plus de personnes dans le changement parce que les autres c'est un peu ce qu'ils font. Donc pendant que la gauche entre guillemets, hein, j'ai au fond de l'affaire, pendant que la gauche dit attention, c'est pas bien et en fait une posture très défensive, les adversaires, eux, arrivent à embarquer des populations dans l'avenir que nous on veut pas, c'est-à-dire les immigrés, enfin virer les immigrés et ainsi de suite quoi. Donc voilà, c'est un peu la pensée que j'ai dans le fond et ça veut dire effectivement aller au conflit quand le conflit est nécessaire et en fait, le conflit est toujours nécessaire, c'est juste le niveau de conflit qui varie. Est-ce que c'est créer le conflit, tu disais, rendre désirable, par exemple, pour rendre désirable, ben souvent, il faut détruire une image du désirable, c'est-à-dire créer un conflit autour de l'usage de la voiture, rendre désagréable, en quelque sorte, l'usage de la voiture, donc créer un débat autour un conflit autour de la voiture pour pouvoir esquisser des voies. Parce que si ça ne fait pas problème, s'il n'y a pas de conflit, ben en fait, il n'y a pas de changement. Donc le conflit, il est toujours présent à un moment ou à un autre. Par contre, ça peut être les barricades ou ça peut être plutôt une intervention dans l'espace public qui va interpeller simplement les passants. Enfin, il y a plein de manières d'investir ce sujet-là. Voilà, moi, c'est ce que je voulais dire sur cette question du conflit. Être, disons, assez... ne pas se perdre peut-être dans des débats qui sont parfois un peu secondaires hein, et notamment le petit geste et la révolution là, c'est le débat qui revient tout le temps. C'est pas un vrai débat en fait celui-là, puisque comme je disais tout à l'heure, souvent ceux qui sont le plus investis dans l'action, c'est aussi ceux qui sont l'action locale, c'est aussi ceux qui sont le plus investis dans l'action globale. Donc c'est pas vraiment un sujet. Par contre, le sujet d'arriver à toucher les publics qu'on touche pas, arriver à trouver une mesure qui va se dire qui va faire sens pour les gens en les emmenant un peu ce que tu disais aussi dans un avenir qui est désirable parce que ça répond à un vrai problème pour eux. Donc dans ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu ça hein, créer le problème, la solution proposée, ben c'est désirable parce que ça répond à un vrai problème. Si ça répond pas à un vrai problème, voire que ça emmerde les gens, ben c'est sûr que là on a raté. Donc cet effet d'engrainement où on est en train de faire le changement pratique, c'est parler moins, agir plus, mais agir voilà, de manière très stratégique en tenant compte de toute l'expérience qu'on peut accumuler. Voilà, pour moi, c'est ça un peu le point central.
Je prends la suite. Alors juste en rebond à ce qu'on dit à la fois Antoinette et Jean-Baptiste tout à l'heure. Antoinette, tu parlais beaucoup de SS et on a eu l'occasion de travailler ensemble là-dessus. Et finalement, en filigrane, il y a aussi la question des modèles de gouvernance alternatifs au modèle dominant. Et en complément, je voulais juste dire qu'un des enjeux que nous, on a posé dans ce mandat de manière très forte, c'était la reprise en main par le public, par le secteur public, par les pouvoirs publics d'un certain nombre de domaines d'exercice. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé de ce qu'on faisait en tant que collectivité. Je vous ai aussi parlé de nos entreprises publiques locales, parce qu'on a la chance d'avoir un réseau dense de sociétés publiques locales, de sociétés d'économie mixte et aussi de sociétés coopératives à Strasbourg. Et en fait, on s'appuie sur ces autres modèles de gouvernance, parfois purement public SPL, parfois d'économie mixte, donc public et privé, société d'économie mixte, pour développer un certain nombre de politiques publiques. Et ça nous a permis notamment de reprendre la main, on est en train de reprendre la main, on a créé beaucoup de SPL et de SEM dans ce mandat, de reprendre la main sur l'espace public, le stationnement en voirie. C'était une société privée qui était d'ailleurs très critiquée. Là, on a créé une SPL et donc c'est la ville de Strasbourg qui reprend la main publiquement sur l'espace public et le stationnement en voirie, et pareil sur la production d'énergie renouvelable ou sur le développement de nos réseaux de chaleur, ce qui permet aussi de massifier la décarbonation de notre production énergétique et de donner aussi un accès à des prix abordables pour tous et toutes à une énergie qui reste peu chère, ou en tout cas moins chère que l'énergie fossile. Juste, je voulais évidemment répondre rapidement à la question de la conflictualité, parce que j'ai envie de dire c'est un peu notre quotidien. Mais je ne suis pas d'accord pour dire que s'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de changement, et je vais le démontrer tout de suite en vous rappelant cette initiative donc, qu'on a pu porter à Strasbourg, l'ordonnance verte. Donc, c'est la distribution de paniers de légumes et de fruits bio locaux gratuitement aux femmes enceintes durant la durée de leur grossesse, assortie d'ateliers de sensibilisation sur la question des perturbateurs endocriniens, ateliers dans lesquels on alerte sur les risques liés à l'exposition aux produits chimiques, notamment pendant la période de la grossesse où c'est le plus dangereux en fait pour la santé de la femme enceinte et de son enfant à naître. Et on va jusqu'à donner un certain nombre d'exemples de changements de consommation et de pratiques au quotidien dans l'alimentation, sur les cosmétiques, les produits ménagers, etc. Pas seulement pour la femme enceinte, merci la charge mentale pour les femmes, mais aussi du coup pour leur entourage. Et donc ça, on a lancé ça il y a 3 ans. Avec là aussi de l'investissement en budget public, on a pu toucher 2400 femmes, ce qui correspond à peu près à un tiers des femmes enceintes du territoire. Donc on commence à atteindre quand même des seuils qui sont intéressants. On a distribué 32 000 paniers de légumes bio, et donc là aussi, en fait, c'est un cercle vertueux puisque ces paniers de légumes, ils ont été produits localement, ils sont issus de l'agriculture biologique. Et donc, on va faire travailler des agriculteurs qui sont à 20 km de Strasbourg et qui sont ravis de ce dispositif. Et on a sorti le dispositif aussi d'une dimension solidaire, puisque en fonction de ses revenus et de son... En fonction de son quotient familial, on va avoir une durée plus ou moins longue de distribution gratuite des paniers, tout simplement aussi pour pouvoir toucher plus de femmes. En gros, si on a des revenus plutôt élevés, on va pouvoir bénéficier de ces paniers pendant 2 mois. Et si on a de faibles revenus, ce sera pendant la totalité de la durée de la grossesse. Pourquoi 2 mois ? Eh ben parce que les études nous montrent qu'au bout de 2 mois, il peut y avoir un changement de comportement pérenne. Et ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas forcément de conflit, parce que pour le coup, alors il y a bien un truc sur lequel on n'a pas été critiqué, c'est l'ordonnance verte. Parfois, on nous a dit il faut aller plus loin, il faut aller plus vite, etc. Mais personne ne nous a dit qu'il ne fallait pas le faire. Donc ça a été un vrai succès, avec des femmes qui viennent me remercier dans la rue en me disant c'est formidable, ça a changé ma vie, etc. Donc on est sur du changement de comportement individuel, mais quand même à large échelle, et qui touche, et c'est ça que je trouve intéressant dans le dispositif, qui touche tout l'entourage. Et donc, il y a aussi les conjoints, conjointes, il y a les voisins, il y a les enfants, et finalement, on va réussir à toucher comme ça toute une communauté à l'échelle d'une ville. Et d'ailleurs, on a notre députée écologiste Sandra Regol qui a déposé une proposition de loi pour que ça puisse être généralisé à l'échelle de la France. Et juste pour finir sur cet exemple, donc vous dire qu'on mène là une étude à la fois d'épidémiologie environnementale pour voir les effets concrets sur la santé de ce dispositif, mais aussi une étude sociologique pour voir si le changement de pratique autour de l'alimentation et de tout ce qu'on a pu, de tous les messages qui ont été passés dans ces ateliers de sensibilisation, perdure dans le temps, et si ce changement de comportement, il va véritablement être s'inscrire dans la durée, voilà, et s'aimer. Et donc, les premiers résultats semblent dire que c'est bien le cas, mais là, on mène 2 études, donc, avec plusieurs instituts de recherche pour pouvoir aller plus loin sur ce changement de comportement. Donc ça, c'est l'exemple produit d'appel positif consensuel. Dès qu'on touche, par contre, à la question du partage de l'espace public et de l'utilisation de la voiture, même à Strasbourg, qui pourtant était plutôt en avance sur les questions de piétonnisation, de trams, de pistes cyclables, mais ça reste un déchaînement de passion dans tous les sens, avec beaucoup de conflictualité, énormément de conflictualité, à tel point qu'un projet, un très beau projet de transformation de mobilité et urbaine, un projet qui devait connecter le nord de l'agglomération, a donné lieu à beaucoup, beaucoup d'instrumentalisation politique et de conflits, qui a abouti à un avis défavorable de la commission d'enquête et qui a fait capoter le projet l'année dernière. Mais nous avons rebondi avec une convention citoyenne. Je vous en parle parce qu'ils ont déposé, ils nous ont restitué leurs travaux au bout de 6 mois, il y a 3 jours. Voilà. Et je voulais juste le dire parce que ce qui est intéressant dans ce qu'ils proposent, c'est que finalement, ils souhaitent que le tram se fasse et se fasse vite. Donc il y a bien cet enjeu de dire oui, il faut des transports en commun, etc. Mais ils sont beaucoup plus modéré que le projet qu'on avait pu nous proposer initialement dans le rythme et la transformation urbaine. En gros, ils disent oui, il faut le tram, mais il faut plutôt inciter les gens et pas les contraindre. Donc, ce serait bien de laisser des voies pour les voitures un peu partout, quoi. Voilà, ce qui n'était pas vraiment, évidemment, ce que nous, on apportait. On avait mis beaucoup de végétalisation, beaucoup de trottoirs, beaucoup de pistes cyclables et on avait restreint assez drastiquement la place de la voiture dans l'espace public dans ce projet. Donc, je vous le raconte, mais c'est intéressant. Évidemment, on va suivre les préconisations de la Convention citoyenne, mais ça montre que parfois, la volonté de transformation massive et rapide peut aussi se retourner contre nous, et que là, les citoyens, en l'occurrence, ils nous disent « Ok, on fait la transformation, mais on va y aller plus progressivement. »
Merci beaucoup pour ces exemples. Juste une petite question sur la conflictualité. Est-ce que l'ordonnance verte pour les femmes enceintes n'a pas été critiquée quand même par la FNSEA ? Je sais pas. Enfin, personne l'a mal pris, quoi. C'est...
Mais même pas.
Ok, donc même l'agriculture conventionnelle vous a laissé tranquille à l'échelle locale.
Tout le monde nous a laissé tranquille, en fait. On parle de santé des femmes et des bébés pendant la durée de la grossesse. Ça marche. Personne n'a critiqué ce dispositif. Le seul truc qu'a trouvé notre opposition à dire, c'est « Ah oui, vous touchez pas assez de femmes et vous pourriez finalement aller plus loin. » Voilà.
Faudrait
donc,
voir si
un vrai succès, sans conflit, garantie sans conflit.
Il faudrait voir si le même sujet à l'échelle nationale ne déchaîne pas le conflit avec les lobbies. C'est peut-être là la force du pouvoir local, la FNSEA laisse tranquille dans ce cas-là. Jean-Baptiste Grenier, je te laisse la parole aussi pour répondre à cette question.
Oui, effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais à Fabrice et aussi aux illustrations que tu as données, Jeanne, effectivement, il y a un enjeu de réussir à articuler la théorie, on en a parlé en début, et la pratique, la modification concrète. À ce titre-là, je voudrais vous partager peut-être 2 exemples, un exemple national et un exemple plutôt local. Au niveau national, on a fait un travail avec l'Institut de la Boétie pour essayer d'identifier les grands leviers sur lesquels il faut agir pour atteindre notamment les objectifs climatiques. Donc ça veut dire un travail qu'on a fait avec des ingénieurs, des spécialistes, on était une quinzaine, qui a donné lieu à une note, là, gouverner le système énergétique par les besoins, je fais un peu de pub aussi pour la note, dont les objectifs étaient les suivants. Présenter, faire sentir un peu les grands équilibres qui régissent la question climatique et énergétique en France. Présenter les principaux leviers et aussi rendre visibles les équilibres entre les leviers humains, on va dire, sobriété, justice, démocratie, et les leviers technologiques. Quelle maturité, quelle perspective, quel risque. Et on a notamment travaillé du coup sur les leviers de sobriété et de transformation de mode de vie les plus structurants. Ce qu'on sait, c'est que si on veut pas aller sur des solutions qui sont technosolutionnistes ou risquées du point de vue technologique, on va devoir vraiment agir au cœur des modes de vie. Et on s'appuie notamment sur le travail de l'ADEME pour démontrer ça. Par exemple, sur la question de la consommation de la viande. Dans tous les scénarios de l'ADEME, pour respecter notre trajectoire, il faut baisser entre 30 et 70% la consommation de viande à l'échelon 2050. Donc ça, c'est hyper structurant. Pareil, sur la construction neuve. La construction neuve, dans tous les scénarios, c'est presque 80 à 90% de baisse de la construction neuve de logements en France pour privilégier la rénovation, les réemplois, l'utilisation de friches, des dents creuses dans la ville. Troisième élément, sur le nombre de kilomètres parcourus. Le nombre de kilomètres parcourus, les mobilités, elles augmentent de manière exponentielle depuis 1945, avec le nombre de kilomètres parcourus par habitant qui est chaque année plus élevé. On sait que si on veut respecter la contrainte climatique avec les technologies qui sont les nôtres, on va devoir baisser entre moins 17 et moins 33% le nombre de kilomètres parcourus. Donc, en fait, cette question-là, à l'horizon 2050, on va devoir l'affronter très très frontalement, la question des modes de vie. Et ça, c'est quelque chose déjà qu'on a essayé de mettre en évidence. Dans cette note, nous, ce que ça a identifié, c'est qu'on voit trois clés de transformation. La première clé, bon, vous l'aurez compris, elle est assez évidente, c'est de commencer par faire évoluer les modes de vie de ceux qui vivent très clairement au-dessus des moyens de nos écosystèmes et pointer leurs responsabilités. Ce qu'on va appeler, par exemple, les consommations ostentatoires. Ça va être les jets, les yachts, les maisons en surplus, les 3,5% de propriétaires qui possèdent 25% du logement privé, qui possèdent 50% du parc locatif social. Là, on a clairement des marges de manœuvre claires dans un premier temps. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que ça ne suffira pas. Il y a aussi, on va devoir agir sur la masse, sur l'immense majorité des gens qui, en fait, structurellement, sont dépendants d'un mode de vie qui fait que leur mode de vie est au-dessus des limites planétaires. Là-dessus, nous, un des éléments qui nous semble intéressant, c'est l'idée de dire, oui, on va assumer collectivement, en donnant la direction, en donnant le récit, qu'il y a des choses qui vont diminuer. Mais l'idée, c'est que cette diminution, en fait, elle part d'un constat où il y a énormément d'inégalités dans l'utilisation de l'énergie, de la voiture, des transports, du tourisme, etc. Et donc, on va pouvoir proposer, l'idée, c'est de proposer en face de chaque réduction ou de chaque maîtrise un peu plus forte de la consommation, proposer un nouveau droit. L'exemple dont on a parlé, c'est le trafic aérien. Le trafic aérien, il augmente énormément de manière structurelle. On va devoir le réduire. C'est un des principaux postes d'augmentation, comme le numérique, notamment avec l'IA dont on parlait. Par contre, il y a 50% des Français qui n'ont jamais pris l'avion. Donc en fait, peut-être qu'on pourrait mettre des quotas ou trouver un mécanisme de réduction globale des vols en avion. Mais par contre, est-ce qu'on ne donnerait pas l'opportunité à chaque Français, chaque Française, de faire deux voyages de long cours au cours de sa vie pour aller voir un autre pays, aller voir un autre endroit, aller sur un autre continent, découvrir une autre culture, peut-être. Et donc, là où on réduirait, on créerait aussi plus d'égalité et d'accès démocratique à des consommations. Idem, par exemple, pour la question de la tarification électrique ou énergétique. On sait qu'on va devoir baisser nos consommations, mais par contre, il est indispensable de créer, par exemple, une gratuité, ce qu'on propose, notamment dans le programme de l'NFP, c'était la gratuité des premières consommations, des premiers mètres cubes d'électricité et d'eau qui sont indispensables, qui sont le minimum pour vivre, pour cuisiner, pour se nettoyer, se laver, réchauffer ses enfants, etc. Ça, c'est un deuxième élément. Et le troisième élément, c'est qu'évidemment, il y a un travail d'éducation populaire sur le terrain très très fort à faire, mais qui doit venir du terrain et pas venir d'en haut, parce qu'on sort de 30 ans d'écologisation forcée des classes populaires sur les éco-gestes, etc. Et ça, il faut absolument l'éviter. Voilà quelques clés de lecture au niveau national et au niveau local sur la manière aussi dont on peut articuler théorie, acceptation du rapport de force et changement concret. Nous, à Trappe, l'équipe municipale, on avait un gros sujet sur le logement social. Trappe, c'est 60% de logements sociaux et un parc qui, au début du mandat, était vraiment très dégradé. Et ce qui a marché, enfin, nous, pour réussir à obtenir des résultats dont je vous parlerai, c'est vraiment, premièrement, de partir du quotidien concret des gens. Le quotidien concret et tangible, c'est quoi? C'est la moisissure dans les pièces humides. C'est la porte qui ne ferme pas et qui crée des courants d'air depuis 7 ans. C'est les fenêtres qui ne sont pas assez épaisses. C'est la vitre cassée dans les halls qui refroidit les halls et les pièces communes pendant l'hiver. C'est la maltraitance institutionnelle où, pendant les travaux, on oublie de mettre des toilettes pour les habitants qu'on déplace. Et en parlant de ça, c'est en partant de ça qu'on va pouvoir engager une transformation. Donc c'est du travail déjà militant pour réussir à recenser les difficultés, à organiser les difficultés. Et derrière, on peut organiser le combat et le rapport de force. Nous, au niveau de la mairie, c'est des choses aussi, je sais, qui se mettent aussi en place à Strasbourg. On a structuré les amicales de locataires. Ça veut dire que la mairie verse des subventions aux amicales de locataires qui se structurent dans chaque parc de logement social pour leur payer des frais d'avocat, pour leur payer leurs frais de téléphonie, pour leur donner accès à un local pour pouvoir s'organiser. Ensuite, on a un accompagnement juridique et technique des habitants. Par exemple, contre le plus gros bailleur de la ville, on a rassemblé plus d'une centaine de dossiers avec un avocat, porte par porte, foyer par foyer, pour identifier les maltraitances institutionnelles. Et c'est sur la base de ça, avec aussi une manifestation, des manifestations organisées devant le siège du bailleur, que la majorité a pu obtenir, la majorité municipale a pu obtenir, et en fait c'est pas eux qui l'ont obtenu, c'est vraiment des habitants, et notamment des femmes, qui ont pu obtenir depuis le début du mandat 110 millions d'euros. Alors à l'échelle de Trappes, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a la moitié des logements sociaux qui ont été rénovés ou qui sont programmés en rénovation dans les 5 prochaines années. C'est-à-dire que vraiment, à partir de la lutte de réalité concrète des gens et aussi de militants qui viennent organiser le rapport de force, qui viennent aider, appuyer, comprendre, on peut obtenir des résultats tangibles et concrets et qui viennent radicalement changer la manière dont les gens vont vivre, se loger, se chauffer. Donc voilà, c'était deux illustrations moi, que j'aime bien et qui, à mon sens, illustrent bien la manière dont on peut articuler la conscience qu'il y a un rapport de force qu'il faut engager pour transformer notre vie et la possibilité de s'appuyer concrètement sur les forces vives du terrain. Donc voilà.
Alors, si je reviens à mon tour sur la question de la conflictualité, moi, je pense effectivement que la conflictualité existe. Et elle existe, elle est importante, et elle est aussi manipulée. Et c'est ce qui amène cette notion de conflictualité, selon moi, à l'idée d'une écologie punitive. En fait, c'est ça. Bien sûr qu'il faut changer les modes de vie. Nous n'avons pas le choix. Nos modes de vie ne sont pas compatibles avec le fait de continuer à vivre sur cette planète, que ce soit pour absolument toutes les limites planétaires dont il est question. Je ne prends que l'eau, puisque le week-end dernier, je participais à un débat sur l'eau, parce que moi, j'ai pas mal travaillé ces dernières années sur les questions de l'eau, parce que j'ai fait rentrer dans le champ politique l'affaire Nestlé, pour celles et ceux qui ont aimé suivre cette petite série. Qui n'est pas terminé, qui aujourd'hui est en justice. Enfin, alors, ce que je voulais dire, c'est cette écologie punitive dont on nous rabat les oreilles à longueur d'année. Et j'allais dire dont les lobbies nous rabattent les oreilles à longueur d'année. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Bien entendu que manger moins de viande, ça n'est pas punitif. Ça n'est pas grave de manger moins de viande. On se portera pas moins bien si on mange moins de viande. Et si elle était mieux répartie, peut-être. Et si elle était mieux produite, c'est pas les Bretons qui vont venir nous dire le contraire. Si elle était mieux produite, ce serait beaucoup mieux pour tout le monde. Donc, en réalité, il n'y a pas. Ce qui est punitif, c'est l'absence d'écologie, c'est l'absence de répartition, c'est l'absence de justice. Aussi de justice sociale. Ça, c'est punitif. Mais en réalité, lorsqu'on dit, par exemple, je me souviens du scandale sur les piscines, à un moment donné où on était en période de sécheresse et on dit, quand même, les écolos veulent maintenant enlever les piscines individuelles. On veut pas enlever les piscines individuelles, mais il est quand même normal, lorsqu'on est en période de sécheresse, de se poser les questions de l'usage de l'eau. Moi qui vous parlais tout à l'heure d'un minéralier célèbre, je pense quand même qu'on peut se demander à un moment où on sait que la rareté de l'eau va être un problème dans les décennies à venir, si vraiment le fait d'autoriser des entreprises privées à gagner des milliards dans l'exportation de bouteilles d'eau en plastique, donc de plastique avec de l'eau normalement pure à l'intérieur, à l'autre bout du monde, si vraiment... C'est quelque chose qui est à la fois désirable pour toutes et tous, qui est intéressant et qui permet d'arbitrer normalement et en toute justice sur l'usage de l'eau. Mais l'usage de l'eau, c'est aussi la question des centrales nucléaires. Bien entendu, et du refroidissement des centrales nucléaires, mais c'est aussi la question de la souveraineté numérique dont il est question, puisque tu as travaillé sur la sobriété numérique. C'est qu'avec tous ces data centers dont on nous parle et qu'il faut qu'on ait en France, eh bien, c'est aussi un usage de l'eau qui va être si important pour notre souveraineté. Et l'agriculture aussi, c'est un usage de l'eau qui est important. Bref, tout ça pour dire que non, la question des piscines, c'est pas simplement de dire on veut être punitif, on veut juste qu'on se pose les bonnes questions sur la durabilité de nos modes de vie qui ne le sont pas. Donc il va falloir les modifier, il va falloir décider ensemble comment les modifier, sinon d'autres autres le décideront pour nous. C'est aussi ça. Donc oui, bien entendu, il y a conflictualité dans le changement des modes de vie. Enfin, il y a conflictualité. Il va y avoir conflictualité si on ne le prépare pas de manière démocratique. Et c'est pourquoi qu'écologie et démocratie doivent aller de pair pour décider ensemble de ces grands sujets qui se poseront à nous, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qui est le parallèle, c'est en fait le poids des lobbies. C'est qu'en fait, pour pouvoir avoir cette discussion de manière à peu près apaisée et démocratique, il faut que nous puissions lutter contre les lobbies. C'est-à-dire qu'à chaque si à chaque projet de loi ou proposition de loi qui puisse aller dans le sens d'une écologie du quotidien, nous n'avons pas tous les lobbies des industriels en question qui viennent, et on l'a vu avec les PFAS et Tefal. Vous l'avez vu, bien sûr, les PFAS, on a réussi, les écologistes, à faire en sorte qu'ils puissent être interdits. Il y a un domaine dans lequel ça n'a pas été interdit, parce que Tefal avait des lobbyistes très, très puissants. Et donc ça, c'est pas possible. On ne peut pas laisser le politique se laisser abîmer par le monde, par d'autres intérêts que l'intérêt général. Et donc ça, c'est important. C'était le deuxième point que je voulais aborder. Et puis le troisième point que je voulais aborder, parce qu'on l'a pas encore abordé dans cette discussion, c'est le rôle de la publicité. Et le rôle de la publicité est important dans le changement des modes de vie, et dont je viens de vous dire qu'ils étaient nécessaires, puisque ce qu'on essaye de nous faire croire, c'est que tout peut continuer comme avant. Il n'y a aucun problème. On n'aura pas de problème d'eau. On peut continuer à faire tout ce qu'on a dit. On n'aura pas tellement de problèmes. On va s'adapter au changement climatique. Bon, la biodiversité, on va voir. Et en réalité, c'est pas possible. La publicité nous vend des modes de vie qui ne sont pas compatibles avec l'habitabilité de la planète. Et ça aussi, il va falloir le traiter, et le traiter de manière, j'allais dire, de manière politique. Quand on a décidé dans la proposition de loi sur la mode durable, non pas sur la mode durable, sur l'anti-fast fashion, on a décidé d'interdire la publicité. Et donc, on a dit, il n'y aura pas de publicité pour ce type d'entreprises qui, en fait, ne vont pas dans le bon sens, ni sur le plan écologique, ni sur le plan humain. Donc, on est capable de réguler la publicité. Et c'est ça qu'il va falloir le faire. Je sais que les villes l'ont beaucoup fait, et les villes écolos l'ont beaucoup fait à leur manière sur les règlements locaux de publicité. Et il va falloir le faire au niveau national, parce que c'est bien sûr cette publicité qui continue à permettre aux uns et aux autres que ces modes de vie sont tout à fait viables, ce qu'ils ne sont pas. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Il nous reste 35 minutes environ pour les échanges avec vous. Et donc, je vous donne la parole, je vous fais passer le micro. On essaye d'alterner les prises de parole. J'en vois une première ici.
Merci beaucoup. Il y a un sujet qui me préoccupe beaucoup et qui me paraît fondamental, et j'aimerais bien vous entendre en parler un peu, c'est celui de l'école et des bases donc de la réflexion et de l'action pour améliorer les conditions de la vie sur cette planète.
On va prendre une série de questions, je me déplace avec le micro, hop, là, et ensuite je viendrai vous voir.
Bonjour. Moi, j'avais une question sur la notion de la liberté et une reformulation écologique du concept de la liberté, parce que ça touche beaucoup à la question du mode de vie, de style de vie. Il y a une part d'autonomie, d'aspiration individuelle et personnelle. Et donc, comment on peut être libre si notre conception de la liberté aujourd'hui, elle est assise sur l'extraction de manière extensive des ressources? Et comment être libre autrement, en fait? Et je pense que tant qu'on n'a pas répondu à cette question, on peut faire un certain nombre de choses pour modifier. Mais pour arriver au désir, il faut aussi que la question de la liberté individuelle et de l'aspiration individuelle y soit pour quelque chose. Et pour ça, il faut qu'on parle de liberté, mais sous l'angle écologique.
Hop, j'ai vu là, ensuite je reviens là. Hop.
Merci. C'était une question, est-ce qu'on peut parler de changer les modes de vie si on parle jamais de changer son mode d'habiter et si on parle jamais de la métropolisation, c'est-à-dire que vous avez beaucoup parlé du capitalisme, du système, etc. Mais on parle pas tant des modes d'habiter en soi et du lissage que la métropolisation a opéré sur nos modes d'habiter. Le fait d'avoir été privé d'un certain nombre de savoirs vernaculaires notamment. Et peut-on faire transformation écologique si la métropolisation et le lissage sur les modes d'habiter métropolitains n'est jamais abordé ?
Oui, s'il vous plaît. Bon, moi je trouve absolument passionnant là tout ce que j'ai entendu. Ce qui me fait écho, je les résumerai autour de mots comme rareté, gaspillage, abondance et gaspillage surtout. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des actions qui effectivement peuvent amener à des changements tangibles autour de ces gros mots, hein? Gaspillage, rareté. Voilà. Merci.
J'ai vu encore 4 mains, mais essayez d'être concis.
Bonjour, merci pour cette intervention. J'avais juste une petite question, peut-être un petit peu naïve, mais dans notre cadre où là, on s'intéresse au concret, est-ce qu'il n'y a pas une place aussi pour imaginer des modes de vie avec l'utopie ? Qu'est-ce que vous en pensez de réinvestir l'utopie, par exemple ? Merci.
Oui, parmi les questions qui touchent beaucoup à notre mode de vie, on parle certes de la voiture, on parle de beaucoup de choses. Par contre, je trouve qu'on ne parle pas beaucoup du smartphone. Moi, je suis très frappé du fait que nos modes de vie deviennent de plus en plus dépendants de ce petit objet, qui devient une véritable prothèse. Et le simple fait de décider de ne plus en avoir est quand même le fait d'une minorité. Et voilà. Et c'est un sujet que je trouve très peu abordé, mais qui pose plein de questions, je dirais, de santé mentale, d'environnement au sens de la consommation énergétique des data centers, des terres rares, enfin, toutes ces choses-là. On sait que c'est vraiment un abîme de problèmes et on n'en parle pas.
J'ai vu deux mains en bas et après.
Oui, bonjour, merci pour vos interventions, très, très intéressantes. Et alors, on parle beaucoup dans différentes interventions des lobbies. Et alors, j'aimerais, comme là, il y a des élus ou des. Est-ce que concrètement, vous pouvez illustrer l'action des lobbies, enfin, je ne sais pas, le lobby de la voiture, le lobby des énergies. Comment ça se passe? Comment les contrer, en fait, aussi? Comment on peut contrer ces lobbies pour changer, qui ne veulent pas qu'on change de mode de vie? Et donc, comment on peut faire?
Oui, merci. Une question un petit peu dans le même sens. On a fait état de la question des limites planétaires tout à l'heure. Et pour rebondir, on est aujourd'hui obligé d'être dans une société de la sobriété, enfin, remplacer l'ébriété par la sobriété. On a, dans le cadre de pas mal de tables rondes, esquissé la question des normes, l'obligation de mettre la mise en place de normes pour justement travailler sur la question peut-être de la sobriété. Et sur la question de l'eau, moi, je voulais vous interroger sur la question de la hiérarchie des usages, ou sur la question de l'eau, mais peut-être des ressources naturelles. Comment, effectivement, une démocratie écologique peut s'emparer de ce sujet de la hiérarchie des usages et comment on peut placer cet enjeu-là dans le cadre de nos propositions écologiques? Merci.
Oui, merci. Ouais. C'est bon? Ma question, c'est, on voit, il y a une étude de l'ADEME de 2024 qui dit que l'écologie, c'est la quatrième priorité française. La première, c'est le pouvoir d'achat. Donc, vous voyez la contradiction. Pouvoir d'achat, sécurité, immigration. La quatrième, c'est l'écologie. Est-ce que on peut rendre les gens écolos sans qu'ils le sachent, parce que c'est un terme qui braque aujourd'hui. Parlons climat, on fait des études sur les sujets, on parle d'écologie, l'écologie est une notion plutôt politique pour les grands publics. est-ce qu'on peut faire que les gens, on parle plutôt des santé? Est-ce qu'on parle plutôt des qualités de vie? Je pense que c'est une interrogation qui vaut la peine mettre sur la table parce que il faut qu'on trouve les moyens d'arriver et de toucher tout le monde pour que la transformation et pour que la transition puisse se faire. Sans changement, la transition, sans changement, c'est pas possible. Voilà.
La dernière, je ne sais pas si elle va être simple comme question, mais c'est doit-on changer de culture? Et si on doit changer de culture, comment le faire sans se sentir exclu?
Je vous laisse reprendre. Vous choisissez des questions. J'en prends une dernière en descendant. C'était... Bon, deuxième tour. Vous choisissez vos questions.
Non, allô, allô. Oui. Je pense qu'il y a une partie des questions quand vous dites l'école, le smartphone, les métropoles. En fait, c'est des aspects particuliers du mode de vie, de la question des modes de vie. Alors, si on veut traiter tous les aspects des modes de vie, on y sera encore dans 6 mois, en fait. Hein. Vous voyez bien que vous trouvez tout un tas d'aspects. Donc, une difficulté avec les modes de vie, c'est de se dire quel aspect je vais attaquer et comment je vais l'attaquer, en fait, pour le faire changer. Donc déjà, bien distinguer ce qui relève du mode de vie, donc par exemple la métropolisation, évidemment que ça impacte assez massivement les modes de vie. Mais il n'y a pas que ce facteur-là. Il y a la mécanisation, la division du travail. Enfin voilà, il y a une liste longue comme le bras d'aspects qu'on peut regrouper en disant « c'est le système capitaliste ». C'est une manière de regrouper tous ces aspects-là. On pourrait prendre d'autres aspects et dire, en fait, non, ce n'est pas le système capitaliste, c'est le système patriarcal, en réalité. On pourrait prendre une autre manière de voir les choses en intégrant les propositions, disons la discussion du côté du socialisme, et voir que c'est peut-être un problème productiviste, puisque, par exemple, si on prend les propositions du PC sur... eux, ils jugent la sobriété irréaliste. Voilà, donc c'est vite vu. C'est pas leur... Bon, donc il y a un débat général de qualification de dans quoi on est. Ça, c'est le premier point, avec tous ces aspects-là. Le deuxième point, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire bouger le de quoi on est. On est dans un truc qui a notamment la métropolisation. Comment on veut arriver à le faire bouger? Arriver à le faire bouger, c'est identifier des modes de vie qu'on veut faire basculer. Et si possible, par effet de cascade, c'était l'exemple de l'ordonnance verte, est un bon exemple, même si on pourrait dire que c'est pas un changement de système, c'est un changement qui est peut-être petit, mais la logique est la même. C'est-à-dire, comment trouver l'effet de levier qui va faire la traînée de poudre, parce que c'est ça en fait, c'est la traînée de poudre, qui, de proche en proche, va presque s'auto-alimenter pour faire un basculement qui est en fait bien plus important que ce qu'on croyait et arriver à trouver les cibles. C'est ça, pour moi, la question clé, en fait. Hein. C'est surtout des questions de stratégie, d'une certaine manière. Donc, pour la stratégie, peut-être que l'école, c'est bon. Peut-être que tel ou tel autre truc, c'est bon. Et dans les exemples que vous avez donnés aussi, il y a des exemples qui sont pas bons. Ce que tu disais aussi, c'est-à-dire aller cibler... avec des mesures inadaptées, des populations qui se sentent, disons, prises en otage par des personnes qui viennent les voir, qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, sans les avoir jamais écoutées, sans les avoir jamais vues, jamais entendues. Ça, c'est très contre-productif. Donc, en fait, voilà, c'est ce genre de choses qu'il faudrait essayer, dans la discussion maintenant, d'identifier pour être à un niveau de généralité dans la discussion qui est un petit peu plus grand, justement, que de multiplier les cas, parce que si on prend chaque cas, vous voyez, ça va être forcément très très long. Chaque cas, le smartphone, la métro, est un problème, enfin, est un sujet en soi sur lequel on peut passer 1 heure, 2 heures, 3 heures pour commencer à y voir clair. Je ne sais pas si je suis bien clair dans ce que je dis, hein, pour je resitue la discussion. Donc la liberté, juste pour finir, je ne vais pas être trop long, mais la liberté, elle est contrainte. Hein. Ce n'est pas une liberté abstraite comme ça, c'est une liberté qui est permise par les modes de vie. Les modes de vie permettent, regardez, j'ai branché l'ordinateur, c'est parce qu'il y a tout un dispositif socio-technique, le technicien qui est venu tout à l'heure, voilà. Ça serait moi ou un autre, il viendrait installer le truc. Donc organisationnel, c'est socio-technique. Ça rend possible le branchement de l'ordinateur. Et il y a plein de trucs qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas, si on éteint la lumière, on ne voit plus rien parce que les fenêtres sont trop petites. Donc, on ne peut pas s'éclairer à la lumière naturelle. Par exemple, je prends un exemple vraiment bateau parce que le lieu s'y prête. Hein. Mais il y a plein de choses comme ça. Et donc, l'enjeu, c'est d'arriver à identifier ces situations qui se répètent. Donc les femmes enceintes qui ne mangent pas bio, arriver à faire prendre conscience d'un problème, le problème, ah oui, pas bio, c'est pas bon pour la santé. Derrière, mettre en place l'architecture de choix qui est derrière. L'architecture de choix, c'est apporter l'ordonnance verte, trouver un bon nom. L'ordonnance verte, il faut trouver un nom qui claque et qui donne envie justement au niveau du désir, qui fait que le problème est un bon problème, le choix, il est possible. Derrière, c'est le pied à l'étrier. C'est que le pied à l'étrier. Il ne s'agit pas de faire tout à la place des gens. C'est le pied à l'étrier pour permettre aux gens ensuite de se saisir du problème. Vous voyez, c'est cette logique-là en fait qu'il faut arriver à comprendre, à saisir, à discuter de manière plus large entre nous et après réutiliser dans tout ce que vous faites. Vous voyez, c'est ça l'approche.
Alors, comme on ne peut pas répondre à tout, je vais commencer peut-être. Vous avez évoqué la question de l'utopie pour imaginer les modes de vie. Ça me fait penser à un livre, et comme Thomas Bou est dans la salle, qui a été réédité par les éditions de L'Échiquier, qui s'appelle Écotopia, que vous avez sans doute déjà lu ou feuilleté, mais je trouvais que c'était intéressant. Peut-être que c'est à ça que vous faisiez allusion, mais c'est vrai qu'on peut imaginer, se projeter vers ce qu'est une société écologique. Moi, je voulais aussi répondre à la question du pouvoir d'achat et de l'exclusion. Parce qu'en fait, je crois que tout ça, que la question de pouvoir d'achat et la question écologique ne sont pas antinomiques. Dans le terme, oui, dans le terme pouvoir d'achat, c'est pas très beau. Et en fait, si on le transformait, ce qu'on fait souvent dans nos propos, par un pouvoir de vivre et de vivre bien, écoute, là, ça devient audible dans cette enceinte. C'est-à-dire, oui, c'est peut-être pas le terme achat est peut-être pas le bon, c'est pas vers là qu'on va aller, mais oui, il faut pouvoir vivre. Ça veut dire qu'il faut pouvoir être logé, il faut pouvoir se nourrir, il faut pouvoir, et on en revient à la question de ce qui est essentiel et de ce qui l'est moins, et on en revient à la question de la hiérarchie des normes, puisqu'il y a une des questions sur ce point-là. En fait, quand on dit, je voulais revenir de cette question de pouvoir d'achat qui était pouvoir de vivre pour dire qu'il ne faut pas exclure de ce pouvoir de vivre une partie des gens puisque tout le monde doit avoir droit aux éléments essentiels qui permettent de vivre sa vie. On revient là, on relance la question du revenu universel. Bon, après, ça pose plein de sujets. Mais en tout cas, non, pas d'exclusion. Je pense, par exemple, aujourd'hui à la jeunesse. On a une jeunesse, et par exemple, prenons les étudiants. On a une jeunesse étudiante aujourd'hui qui n'a jamais été autant précarisée, où on peut parler de leur pouvoir d'achat parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'acheter de quoi manger tous les jours. Et donc, qui, avec, je crois que c'est 3,33 € par jour, doivent se nourrir, vivre leur vie, une fois qu'on a enlevé le logement, etc. Et donc, ça n'est pas possible. Donc oui, il faut penser toutes ces transformations du mode de vie avec le fait de pouvoir assumer ce qui est essentiel à la vie. Notre sujet dans l'écologie, c'est quand même la protection du vivant, et c'est aussi la protection du vivant pour l'humanité et pour toutes. J'allais dire pour toutes les personnes, quelles qu'elles soient. Donc oui, défendre pour moi une forme de pouvoir d'achat qui correspondrait au pouvoir de vivre, c'est écologique, même si ça ne porte pas le bon nom. Voilà ce que je voulais dire.
Ça marche ? Oui, c'est bon. Oui, moi je voulais revenir, il y avait deux questions qui ont été posées à la fois sur l'utopie et la liberté, et je pense qu'il apparaît aussi en transverse sur cette question, c'est la question démocratique. Alors on en a parlé au fur et à mesure des différentes interventions sur la question du contrôle démocratique, sur les entreprises, par exemple via l'ESS, ou des principales infrastructures qui structurent les modes de vie. Mais je pense vraiment que ce qui est important, effectivement, c'est comment est-ce qu'on organise le choix démocratique et comment on fait émerger la réflexion sur cette transformation, cette bifurcation qu'il faut créer. Et on est dans une phase politique actuellement où on manque très 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 cruellement de cadres, notamment au niveau national, qui permettent l'expression de cette démocratie, de cette réflexion collective. Et donc, je pense vraiment qu'à ce titre-là, il y a un travail de fond à engager à l'ensemble des échelons. D'ailleurs, à ce titre-là, les mairies sont bien plus en avance que les mairies ou les intercos sont bien plus en avance que l'État sur la manière dont on peut faire émerger, en partant du bas, des propositions, des solutions, des évolutions que le politique lui-même n'aurait pas osé ou même imaginé en haut ou les technocrates en haut. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on réussisse à porter. L'idée de créer de nouveaux cadres d'expression et aussi de réels pouvoirs. Par exemple, je donne un exemple, au niveau local, sur le programme pluriannuel d'investissement, donc en gros les investissements qu'on va réaliser au niveau de chaque collectivité, la vérité c'est qu'en fait il y en a 95% qui sont déjà décidés avant même les maires, en fait ils ont une marge de manœuvre qui est faible, parce qu'il y a des choses structurelles, rénover les écoles, entretenir la voirie, etc. Et en fait on se rend compte que les habitants, sur ces grands choix structurels, qui sont là pour 10, 20, 30, 100 ans, ils en décident qu'une toute petite partie, il y a des budgets participatifs, etc. Et un des premiers leviers, ça peut vraiment être de redonner le pouvoir à tous les échelons, à la fois budgétaires, réglementaires, etc. Et je pense que ça peut permettre aussi de faire émerger ce débat, qui permet de se poser la question aussi sur où est-ce qu'on va, comment on y va, avec quels moyens, avec qui, en redonnant le pouvoir. Donc voilà, je pense qu'il y a cette question de démocratie qu'on n'est pas forcément abordée, mais qui est vraiment cruciale à mon sens.
Moi, je voulais aborder la question de l'école, puisque c'est évidemment un sujet sur lequel, en tant que municipalité, on a beaucoup de leviers, même si nous, on n'intervient pas, on travaille avec l'éducation nationale sur la question des programmes, mais on n'est pas sur la partie pédagogique en tant que telle. Par contre, vu que c'est nous qui gérons et assurons la maintenance des écoles, des cours d'école, de l'ensemble des équipements scolaires et périscolaires, forcément, ça nous donne des leviers très forts d'action en direction de la jeunesse, et d'ailleurs on peut même commencer dès les établissements de la petite enfance et toucher véritablement les tout petits, voire les enfants qui ne sont pas encore nés avec l'ordonnance verte, comme je le disais tout à l'heure. Donc on a beaucoup investi, nous, sur nos écoles, aussi parce que finalement c'est un des premiers lieux de sociabilisation, c'est déjà une petite communauté qui s'ouvre sur la ville avec les enseignants, le personnel des écoles, les parents d'élèves qui gravitent autour, et donc c'est assez intéressant en fait. Et je voulais juste vous donner l'exemple de la végétalisation des cours d'école, parce qu'en fait on l'a un peu vendu en adaptation au changement climatique, il faut rafraîchir la canicule, etc. Et c'est une réalité. Mais en fait, on a fait beaucoup plus que ça, parce qu'en travaillant sur le réaménagement des cours d'école et en le faisant avec les enfants, avec leurs parents, avec toute la communauté éducative, on est allé sur beaucoup d'autres sujets. De manière très vicieuse, on a dégenré nos cours d'école. Donc on a vraiment travaillé avec des spécialistes pour travailler l'égalité filles-garçons dans le partage de l'espace dans une cour d'école, parce qu'on sait que là aussi il y a des réflexes qui démarrent dès le plus jeune âge, où les petites filles vont se mettre sur le côté. Merci. Vont se mettre sur les côtés pendant que généralement des garçons sont au centre, ça c'est objectivé par des études, 80% des enfants vont être au centre, utilisent tout l'espace généralement pour jouer au foot, voilà. C'est pas des caricatures, c'est une réalité. Et en réaménageant ces cours d'école, en fait on reconstruit complètement les relations entre les enfants. Et ce que nous disent les enseignants, et ça c'est assez génial, c'est qu'aussi le climat est beaucoup plus apaisé entre les enfants, c'est-à-dire que de fait ça pacifie, parce que déjà il y a plus de nature, il y a différents coins où on peut aller en petits groupes, les jeux ont été travaillés avec les enfants, donc en fait il y a beaucoup de coopération, il y a plus de mixité, ça se mélange davantage, etc. Et donc on voit qu'on a été finalement beaucoup plus loin avec ces questions de réaménagement des cours d'école que la simple question de il faut rafraîchir la ville et en période de canicule. Donc moi je suis assez convaincue qu'il faut travailler effectivement dès le plus jeune âge parce que ça va avoir une influence énorme sur les comportements. On a fait un autre truc complètement insidieux en rendant gratuits les transports en commun pour les moins de 18 ans. Et en fait pourquoi on a fait ça ? Alors on a fait ça, on parlait de pouvoir d'achat, ça permet d'alléger le budget des familles. Ça permet l'émancipation des jeunes et des mineurs qui, du coup, ne sont pas dépendants de leurs parents pour se déplacer, aller pratiquer des activités, etc., etc. Donc, c'est une forme de liberté, n'est-ce pas, Siamak ? Et par ailleurs, bah, en fait, on leur donne l'habitude de prendre les transports en commun dès le plus jeune âge et jusqu'à 18 ans. Et donc, on parie sur le fait qu'une fois qu'ils ont 18 ans, qu'ils sont majeurs, bah, en fait, ils vont garder cette habitude puisqu'ils ont toujours eu leur badgeo, machin. Et du coup, et après, il y a une tarification solidaire, évidemment, en fonction du revenu, à partir de 3,40 euros, en fonction des différents revenus. Et donc, voilà. Et en fait, c'est cette effet boule de neige qu'on cherche également à obtenir. Mine de rien, on a touché en faisant ça 70 000 jeunes sur la métropole. Sur 90 000, il y en a 70 000 qui ont pris leur badge gratuit, du coup, et qui, du coup, on l'espère, continueront d'avoir cette habitude. Voilà. Et juste pour finir là-dessus, c'est que, évidemment, et souvent d'ailleurs dans les villes écologistes, là, les mesures dont je viens de vous parler, elles sont souvent mises en œuvre un peu partout, et pas que dans des villes écologistes, mais beaucoup. Je trouve qu'il est important quand même de travailler sur les actions de solidarité intergénérationnelle pour éviter, parce que je vous dis ça, parce que comme on a beaucoup investi la question des enfants et des jeunes, ben le revers de la médaille, ça a été que beaucoup de personnes âgées se sont senties exclues de nos politiques publiques. Alors qu'évidemment, ce n'est pas le cas. Mais et on y a beaucoup travaillé avec Marie-Dominique Dressé, qui est là, qui est en charge justement des politiques seniors. Et on est depuis 2 ans en train d'essayer d'inverser un peu la vapeur en montrant que non, évidemment, on travaille pour toutes les générations. Et je trouve que notamment sur les questions écologiques, c'est indispensable d'inclure toutes les générations dans la discussion et dans nos politiques publiques. On a pu accueillir à Strasbourg les aînés pour le climat, ces femmes suisses qui se sont engagées, qui ont réussi à la Cour européenne des droits de l'homme à faire condamner la Suisse pour inaction climatique. Et je trouve que c'est assez formidable parce que ça montre que, on pense beaucoup aux marches pour le climat qui avaient été menées par les jeunes, mais ça montre que, bah non, en fait, on est des personnes âgées, on a tout autant, on est tout aussi inquiets sur les questions d'habitabilité de la planète, et puis on a un intérêt direct parce qu'en période de canicule, bah, c'est souvent les personnes âgées qui vont tomber malades, voire même mourir prématurément, et donc il y a un intérêt direct, etc. Et donc, je le dis parce qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé sur l'enfance et la jeunesse, et il faut continuer de le faire parce qu'on sème des graines pour les générations futures, mais je pense qu'il est indispensable d'être attentif aux questions de solidarité intergénérationnelle.
On a encore une dizaine de minutes, donc je vais reprendre quelques questions. Vous aviez une question tout à l'heure ? Ouais. Non, c'était vous ? On n'a pas
répondu à plein de questions. Moi, j'ai une longue expérience, puisque j'ai passé les 3/4 de ma vie dans des pays en voie de développement et dans des situations de crise et d'urgence. Et je suis un adepte. Au début, on y va pour faire pour, et puis après, on se dit qu'il faut faire avec et part. Enfin bon, évidemment, hein, on évolue. En se débarrassant aussi du caractère un peu néocolonial de ces postures d'aide humanitaire. Mais je trouve quand même que c'est beaucoup plus facile de construire un projet et de faire une programmation participative dans les endroits où finalement il n'y a pas ce foutu empilage et millefeuille administratif. Et là, je travaille à Lyon pour des jeunes en situation de handicap. C'est infernal. Il y a la commune, la Comcom, la métropole de Lyon, le Grand Lyon, le département, la région, et je parle pas de l'éducation nationale et de France Travail qui rajoute, etc. C'est la culture de l'interstice, hein, faut se faufiler, quoi. Et ça, c'est quand même un truc assez compliqué quand on veut monter ces projets de programmation participative avec des gens, c'est parfois impossible.
Merci. Merci pour toutes ces interventions très intéressantes. J'avais une question. À la Révolution française, on nous a parlé de la société du bonheur. Et on essaye toujours de comprendre ce qu'est la société du bonheur, puisque ça a été transformé en une société de bien-être à une société d'avoir des biens pour être, ce qui est un petit peu différent. Mais aujourd'hui, du coup, on est interpellé encore par cette question. Qu'est-ce que c'est que bien vivre ? Moi, j'arrive à un âge où je me pose toujours encore la question, de toute façon. Hein ? Mais qu'est-ce que c'est que bien vivre ? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'être toujours contre ceci ou contre cela, mais d'arriver à poser du pour, de lutter pour, et ça serait quoi le bien vivre commun ?
Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions qui sont très éclairantes. Moi, j'ai une question par rapport aux adversaires, parce qu'on parle des minorités actives et qu'il faut agir sur trouver des alliés. Comment est-ce qu'on travaille avec les adversaires ? Comment l'action publique s'occupe des opposants, c'est-à-dire se fait aussi la voix des oppositions qui sont présentes et qui doivent être entendues pour montrer qu'on essaie d'embarquer tout le monde ? Parce que, par exemple, quand il va y avoir des élections prochaines municipales, comment on fait pour continuer quand on est menacé de ne plus être à l'œuvre de la mise en place de l'action publique ? Comment on embarque dans une action, par exemple dans une campagne, pour justement montrer qu'on porte la voix aussi de ceux qui ne sont pas forcément avec nous, que la contrainte n'engage pas du tout d'envie, alors qu'on a des voix à côté qui sont des sirènes vers des solutions plus faciles.
Ma question va s'inscrire un petit peu dans la continuité. Depuis le début, à part un peu la présentation de Fabrice Flippot qui nous donne quelques questions à se poser et qui rappelle quelque chose de l'ordre d'une professionnalisation des modes de changement de comportement et d'attitude. Sinon, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans le domaine des idées, comme d'habitude, avec les écologistes, mais qu'on n'atterrit jamais vraiment. C'est-à-dire qu'on n'a pas entendu parler de la méthode transthéorique du changement, on n'a pas entendu parler un peu des minorités actives, Serge Moscovici, on est chez les écolos, on ne dit pas ce qu'elles doivent faire précisément les minorités actives, c'est-à-dire garder leur vocabulaire, continuer, créer le lieu du conflit, etc. Donc, ma question est la suivante. On a l'impression qu'en fait, comme souvent dans ces cénacles, on parle des idées, on parle même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anticapitalisme. Et j'ai l'impression que M. Jardine, pas beaucoup, mais ça c'est un autre problème. Mais on ne parle pas tellement de l'atterrissage. Et merci à Fabrice de l'avoir un petit peu estampillé. En gros, on parle là, en fait, de changer l'orientation du marketing dans lequel nous baignons tous les jours et qui fait nos modes de vie et nos styles de vie. Or, je n'entends pas parler de marketing, je n'entends pas parler de communication, je n'entends pas parler de méthodes transthéoriques du changement. Bref, je n'entends pas parler des méthodes qui, ailleurs, en dehors d'ici, font que nous avons des téléphones portables, des micros, des voitures, des 4x4, etc., etc. Et donc, je ne vois pas comment on peut lutter à armes absolument inégales, avec de belles idées, mais aucune méthode qui fonctionne vraiment, parce qu'elle est issue, par exemple, de la psychologie sociale, qui est la science des comportements.
Moi, j'ai trouvé qu'on avait quand même pas mal d'exemples. On n'était pas que dans les idées. C'est dans toutes les... Je vous laisse répondre aux dernières remarques, dans l'ordre que vous voulez. Hop.
Micro, et puis en fait, il est sous mes yeux. Juste sur trois points, hein, les situations de crise. Il y a une question sur les situations de crise. Les situations de crise, alors on appelle ça l'état d'exception en fait, c'est-à-dire c'est un moment où les habitudes s'arrêtent, les systèmes se mettent à fonctionner de manière totalement différente, ou plus ou moins totalement différente. On a vécu ça avec la Covid, c'est-à-dire brutalement, tout le monde s'est mis à faire autre chose que ce qu'il faisait jusque-là. Et vous avez vu, il y a eu beaucoup d'intelligence populaire, les gens se sont mis à créer plein de trucs. Et en fait, il y a deux attitudes qui ont été très différentes. Je vous donne un cas très concret. C'est le changement de mode de vie, ça. Hein. C'est brutalement, les gens font autre chose. En France, il y a eu une volonté de piloter le conseil scientifique, l'état de défense, machin, truc bidule. Voilà, vous voyez ? Avec un objectif qui était d'éviter d'engorger les hôpitaux. Le résultat, c'est que en fait, les gens mouraient, et c'était considéré comme normal. Simplement, il ne fallait pas qu'ils meurent trop vite, parce que ça allait engorger les hôpitaux. C'était ça l'objectif. Et donc, vous regardez, toute la gestion, ça a été fait de ce type-là. Les citoyens n'avaient pas d'initiative, toutes les initiatives étaient d'État. Vous voulez fabriquer des trucs, c'était réglementé, vous ne pouvez pas fabriquer des masques comme vous voulez, et ainsi de suite. Alors, il y avait plein de propositions, des usines qui voulaient faire des masques à leur manière, plein de détournements, voilà, un moment de créativité. Donc, c'est la première position. Deuxième position, ce qu'a fait la Corée du Sud et ce qu'a fait Taïwan. Au lieu d'avoir un conseil scientifique, ils ont mis en place un pool d'ONG pour faire de la contre-information face aux rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux, partant du principe que, bien évidemment, si c'était l'État qui faisait de la contre-information, ça ne marcherait pas, parce que pourquoi croirait-on l'État ? Donc, ils ont mis en place des systèmes de contre-information et ils ont favorisé systématiquement toutes les initiatives de créativité populaire. Résultat, pendant très longtemps, ils ont eu 1000 fois moins de morts par jour que nous. L'objectif, en plus, était beaucoup plus clair, c'était pas de mort. Alors que nous, l'objectif que la plupart des gens acceptaient, il y a eu très peu de contestations, les gens allaient mourir, c'était inévitable. Bien sûr que si, c'était évitable. Et les Coréens ont évité. Alors, les évangélistes ont foutu le bazar à la fin, donc ça a fait remonter la courbe. Mais si les évangélistes avaient fait, beaucoup sont allés en prison, les peines étaient extrêmement lourdes. Enfin, vous voyez, il y a deux manières de gérer les situations de crise. Soit en partant sur l'intelligence collective, soit en partant sur une espèce de contrôle technocratique qui fait en fait que ça rigidifie tout. Donc ça, c'est pour le... Donc, opportunisme, créer des coronapistes pendant la crise Covid, etc., etc. Deuxième point, sur qu'est-ce que bien vivre. Je pense un point central de l'évolution des modes de vie, c'est que précisément, on ne le sait pas. Et comme on ne le sait pas, on cherche à expérimenter, parce que c'est comme ça qu'on le sait, c'est en expérimentant, c'est pas juste en écoutant. Et c'est pour ça que le marketing et voilà, enfin les architectures de choix, ce que j'appelle les architectures, nous guident vers des expérimentations dont on nous suggère que c'est absolument génial et tout, en évitant surtout tout un tas d'autres trucs. En fait, quand on pense mode de vie, il faut penser garde-tree. Nous sommes des petits wagons dans une espèce de avec des choix, mais des choix qui sont très contraints. Il y a une bifurcation à un endroit, mais il n'y a pas trois possibilités. Il n'y en a que deux. Regardez bien comment la société est organisée. C'est des flux logistiques avec des gens qui prennent le métro. Puis faudrait passer la société en film accéléré, en fait. Si on regarde la société en film accéléré, on verra des flux. Et des flux qui passent toujours au même endroit et qui ne bifurquent pas. Et si provoquer une bifurcation, c'est provoquer une nouvelle expérimentation et une nouvelle manière de qu'est-ce que bien vivre. Et une bonne partie de l'enjeu de pourquoi on est là, c'est précisément de provoquer ces petites bifurcations jusqu'à provoquer aussi, possiblement, de grandes bifurcations. Bon, voilà, moi, c'est un peu comme ça que je me représente les choses. Et donc, jouer sur... le marketing, vous avez vu, ça fait très longtemps qu'ils ne vendent pas des produits. Ils vendent de l'identité. Ils vendent du bien vivre. Acheter l'Audi machin truc, vous aurez des amis. C'est pas que c'est puissant, c'est machin. Non, vous aurez des amis. Donc c'est un discours identitaire qu'il faut. Donc ça nécessite un discours contre-identitaire. Donc soit interdire les panneaux pour que les gens soient pas intoxiqués. Et puis, mais par contre supprimer la publicité, c'est-à-dire ce discours identitaire de la société en disant il n'y aura plus de discours parce qu'on supprimera tous les panneaux. C'est pas simplement changer, c'est supprimer. Ben, en fait ça va créer un problème parce que tout le monde a besoin de discuter de son identité. Vous voyez, donc il y a besoin de ces panneaux, de ces supports de discussion, mais pour avoir une discussion en dehors des lobbies, non préemptée par les lobbies. Vous voyez la différence. C'est pas juste supprimer, c'est changer le contenu en fait de cette discussion. Parce que là, les études sociaux aussi montrent que c'est au travers de l'expérimentation même indirecte des modes de vie des autres qu'on va se faire sa propre idée du bonheur. D'où les influenceurs et ainsi de suite. Donc, si on joue pas là-dessus, si on ne s'approprie pas en fait cette discussion publique, et si on la retire pas de ceux qui la manipulent à leur propre profit, on va rester effectivement coincé. On pourra toujours ajouter un débat dans un coin, une assemblée générale de l'autre. Ça n'aura pas prise sur le fonctionnement, sur les choix quotidiens répétitifs. C'est pas monsieur un tel, on s'en fout. C'est répétitif, les flux logistiques. On n'aura pas prise sur ces flux-là. C'est pas, on discute un petit moment, mais qu'est-ce que ça change en fait sur, pas grand-chose. Donc, faut agir sur les choix répétés. Dans chaque endroit où ça peut être fait. Je ne sais pas si je suis clair.
Non, peut-être rebondir sur la question sur les adversaires, puisque c'est évidemment une question qu'on se pose tous les jours et qui est pas simple, qui nous renvoie à la question de conflictualité, mais qui est comment justement parfois arriver à sortir de cette conflictualité en embarquant des personnes qui a priori seraient plutôt opposées à ce qu'on cherche à porter. Et tout à l'heure, tu me posais la question de la FNSEA. Sur l'ordonnance verte, sur ce dispositif, on n'a eu aucune levée de bouclier, parce que je pense que les choses sont assez claires. Encore une fois, c'est les femmes enceintes, c'est les bébés, c'est leur santé. Donc on n'a pas été critiqué parce qu'on mettait à disposition des paniers bio. Par contre, les discussions, elles peuvent être parfois plus compliquées quand on travaille évidemment avec l'ensemble, y compris de l'agriculture conventionnelle, autour de nos marchés de restauration scolaire. Et là, pour le coup, je pense que ce qu'on a réussi, alors ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, hein, évidemment on n'est pas d'accord avec la FDSEA locale, mais on les a un peu court-circuités parce qu'en offrant, en travaillant sur des filières locales et pas que bio, je pense à une nouvelle filière des légumineuses, par exemple, en travaillant sur la transmission des fermes, puisqu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui partent à la retraite, et donc on accompagne ces transmissions en reconquérant le foncier agricole sur nos territoires. Bah, finalement, on répond quand même à un certain nombre des demandes des agriculteurs qui représentent, et en particulier en remplissant leur carnet de commandes à travers nos marchés publics. Et donc, quelque part, alors je ne vous dis pas qu'ils vont tous voter écologistes demain, c'est évidemment pas ce que je suis en train de dire. Ça ne veut pas dire qu'on défend la même chose que la FDSEA, mais ça veut dire qu'on les a un peu court-circuités en bossant avec eux très concrètement et en leur apportant des avantages compétitifs immédiats, en fait. Voilà. Et donc, et ça, c'est notre équipe écologiste qui l'a fait. Deuxième chose sur comment embarquer plus largement. Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de la convention citoyenne sur le tram Nord. C'est pas la première fois, c'est la première fois qu'on fait une convention citoyenne de cette ampleur-là, avec vraiment deux fois des tirages au sort, 50 000 courriers qui ont été envoyés, etc. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on arrive à créer des panels représentatifs de la population avec des personnes qu'on n'aurait jamais réussi à embarquer dans nos dispositifs de participation habituels. Alors, il y a des gens qui se portent pas volontaires, mais mine de rien, on arrive. Oula.
Mine de rien, on arrive.
Oula. Et mine de rien. En fait, on arrive. Je parle de ça parce qu'on disait comment on arrive à sortir les gens de la pub, de la télé, des réseaux sociaux, des trucs qui vont défiler. Et en fait, moi, je pense que, pardon d'être très prosaïque, mais c'est notamment en recréant, comme ici, mais des espaces de discussion en réel qui permettent de recréer de la démocratie, du débat démocratique et de se confronter à l'altérité, etc. Et mine de rien, c'est plus tellement le cas, et c'est ce qui fait que des réunions publiques classiques, elles sont compliquées, parce que les gens, ils sont en mode réseaux sociaux, ah oui, ça répond pas à mon algorithme, polarisation, je suis contre toi, tu es contre moi, etc. Alors que quand on arrive à recréer un espace comme une convention citoyenne où les citoyens travaillent concrètement sur un sujet, et là je vais m'arrêter, en fait, on annihile véritablement ces processus-là, en fait. On revient à d'autres modes de fonctionnement. Voilà, Comment ?
Un vrai problème qui mobilise.
Ah ben voilà, un vrai problème qui mobilise. Donc je suis assez convaincue en tout cas par ces modes de participation qui demandent à mon avis à être développés, qui permettent d'embarquer beaucoup plus largement.